Une production du Studio SF.
Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. La titre, je suis PH Quentin avec moi, Doom Plante, une légende qu'on reçoit aujourd'hui.
Une légende, quelqu'un qu'on a, que j'ai voulu recevoir, ben, qu'on a voulu recevoir depuis le début du podcast. Ouais. On le voit beaucoup à la télévision maintenant, beaucoup à Radio-Canada. Raphaël Jacob, un analyste politique de politique américaine hors pair, là, vraiment. Ouais. Un gars qui connaît, qui maîtrise son dossier comme n'importe qui, puis il a un talent avec le verbe, comme j'en ai jamais, très rarement vu. Vraiment un grand invité. On a fait 1h30 parce que c'est tout le temps qu'on avait, parce que Raphaël avait une entrevue à la télévision avant et après, puis il nous a réussi à nous squeezer dans son horaire. Comme on dit, mais on aurait pu faire facilement 3h, 4h même, facilement. Donc... un gars qui en a long à dire, en fait, sur chacune des questions qu'on lui posait, aurait pu être un cours magistral. Ouais. Donc, on va essayer de le revoir quand ouais. que l'actualité politique américaine, on s'entend, est assez mouvementée tout le temps. Donc, on manquera pas d'occasion de le réinviter, ça, c'est sûr. Donc, l'idée à la base du podcast, c'était de parler de la récente guerre peut-être entre les États-Unis et l'Iran, du moins les frappes américaines en Iran, la riposte iranienne, Israël dans le milieu de tout ça. Essayer de comprendre ce conflit-là, revenir en arrière un petit peu aussi pour comprendre mieux le contexte, les origines de ce conflit-là. Je me permets un petit éditorial. On n'a pas beaucoup parlé du conflit israélo-palestinien comme tel, puis de la situation à Gaza. Puis avoir eu plus de temps, moi, c'est certainement un sujet que j'aurais aimé qu'on aborde davantage. Puis je trouve ça dommage aussi à quel point dans les médias traditionnels, on en parle peu, ou du moins on en parle tout le temps d'une manière très prudente et très nuancée, entre guillemets, sans vraiment adresser l'éléphant dans la pièce qui est un peu au complet qui souffre, puis qui meurt de faim, puis qui meurt littéralement. Donc, je voulais le dire en intro parce que on n'en parle pas beaucoup dans le podcast, mais pour moi, c'est important de le dire que ça n'a pas de bon sens ce qui se passe, puis that's it. Fait que, ouais. That's it. T'es-tu à l'aise avec mon éditorial?
Oh, oui, tout à fait à l'aise avec ça. Moi, je suis d'accord avec toi. Et sinon, on parle un petit peu de l'avenir du Parti démocrate avec... avec Raphaël, il nous donne un petit peu sa vision de la situation, qu'est-ce qu'il voit, qui s'en vient pour ce parti-là qui est en grande remise en question. Évidemment, on parle probablement trop de Donald Trump, parce qu'on ouais. parle toujours trop de Donald Trump, mais c'est tellement une figure importante que c'est immanquable d'en parler quand on parle de tous ces enjeux-là. Un invité hors pair, comme on mentionnait au début, c'est sûr que je veux qu'on le reçoive à nouveau. Ça a été un grand plaisir. J'espère que vous allez aimer le podcast autant qu'on a aimé le faire. Bon épisode.
Bonne écoute. Le podcast d'aujourd'hui est présenté par Altitude Sport, qui est une boutique en ligne d'équipements et de vêtements de plein air. C'est une entreprise canadienne basée à Montréal.
C'est une entreprise qu'on aime beaucoup, qu'on utilise personnellement.
Absolument. Ils ont plus de 40 ans d'expérience dans le domaine. Puis aujourd'hui, ils nous ont proposé un petit jeu. Je donne une situation, une mise en situation à PH et il me dit quel équipement de sport il aurait besoin.
Puis là, on s'est pas briefé.
Tu fais une compétition de trail.
OK.
Le départ est à 5h du matin. Fait quand même frais et humide. Mais l'affaire, c'est qu'il prévoit, ça prévoit se réchauffer drastiquement dans la journée.
Mm-hmm.
Donc, il va possiblement faire très chaud et humide dans la journée. Mais il y a un col assez haut où c'est très venteux.
Où c'est sommet. Très venteux.
Comment okay. tu t'habilles?
OK. Première chose, définitivement une veste d'hydratation pour le trail. Une veste qui est capable aussi de traîner, d'avoir un sac à dos, une lampe frontale. Après ça, j'aurais une genre de petite casquette qui est une visière. Fait que rien en haut. Je pense que j'irai en short parce que tu gèles pas de toute façon du bas des jambes quand il fait 12. Mais surtout, et c'est là la chose intéressante, une coquille imperméable et anti-vent était bueno.
Wow! T'as relevé le défi.
J'ai relevé le défi. Altitude Sport, ce qui est vraiment de la bombe, ce qui fait que moi, j'y retourne tout le temps, non seulement le choix au-dessus de 400 entreprises, mais c'est surtout la rapidité de livraison. En fin de semaine, j'ai le demi-marathon de Lévis au moment où on enregistre ça, là, et j'avais besoin de bouteilles d'hydratation à tenir dans mes mains. J'ai eu aucune inquiétude quand les commandants, aujourd'hui, lundi, ils allaient arriver à temps pour mon demi-marathon. Puis comme de fait, ils sont supposés arriver demain, mardi.
Magasiner sur Altitude Sport et économiser jusqu'à 20% sur la première commande avec le code sans filtre. Alors, toutes les informations sont dans la description. Alors, je vous encourage fortement à cliquer sur le lien.
Équipez-vous, ça en vaut la peine.
Let's go!
Clic, 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 clic.
Salut, on vous dérange pas longtemps pendant votre podcast parce qu'on veut vraiment vous parler de Tréma. Tréma, en fait, c'est le premier café latté en canette québécois. Fait avec du lait d'ici, disponible dans les épiceries comme Métro, les Couches-Tard. Fait que rendez-vous!
Ça va-tu, Louis?
Ben, moi, je suis juste sûr pas que le monde parte.
Bon podcast!
Vous, 28, tu sais, Nicolas m'a dit qu'il y avait 28, c'est sûr.
Moi, 34, j'ai 31,
c'est ça, t'as fait un petit peu de gris. Fait que je me dis, c'est pas à 28, il n'y a pas de gris. D'habitude, ouais, ouais. C'est pas toujours vrai, des fois, c'est vrai. Ouais, en tout cas, ouais. Fait que, tu sais, je pose la question parce que Christy, à 25, 30 ans, c'est pas tout le monde qui sait qui parle l'arcan, c'est fou à dire, mais c'est vrai pareil. Bref, il avait une politique béton, là, que tu sais, à part dans des cas réellement exceptionnels, genre c'était le premier ministre, là, tu viens en studio ou t'es pas dans le show. Mm-hmm. Ça, c'était vrai pour ses propres collaborateurs. Le monde qui était des chroniqueurs réguliers ne pouvait pas faire son show remote. Sinon, c'était comme...
C'est drôle, moi, tu me dis ça. Là, on va commencer. Ouais. Mais tu me dis ça, puis ça, on pourra garder ça dans le podcast.
Absolument.
Mais Paul Arcand, moi, j'ai été un invité une fois, okay. Puis c'était à distance, en fait.
Oh, ouais.
Curieusement. Curieusement, ouais.
Mais attention, ça, c'est différent, parce que t'es pas un collaborateur régulier.
OK, c'est ça. Non, c'est ça, c'est
des
ça.
Des fois, tu peux pas t'attendre à ce que la personne se déplace.
Je comprends.
Mais quand t'es dans le staff, normalement, fait qu'il t'avait fait, par curiosité, ça, c'est ouais. Quoi?
En fait, longue histoire, là, moi, j'ai fait Occupation Double là, maintenant 8 ans, je pense. Mm-hmm. Puis,
on dit-tu félicitations pour...
Non, pas du tout. En fait, le contraire, j'imagine, là, d'une félicitation. Mais c'est ça. Puis moi, en fait, parallèlement à ça, avant d'aller à Occupation Double, j'étais à la maîtrise en littérature, puis j'étudiais le journalisme gonzo là, de Hunter S. Thompson. Puis là, à un moment donné, j'avais comme fait une entrevue, je pense que c'était à la presse ou au devoir, où est-ce que je racontais que j'étais allé un peu à Occupation Double avec en tête du journalisme gonzo, tu sais, essayer d'aller vivre une expérience.
D'écrire de l'intérieur.
D'écrire de l'intérieur, qu'est-ce que je vivais comme expérience là-bas. Puis essentiellement, ça avait été. J'imagine mal compris dans les magazines à potins comme de quoi j'étais allé là un peu dans un dîner de cons, tu sais, pour rire du monde là-bas, puis là il m'avait son équipe de recherche m'avait demandé d'appeler, puis là lui il arrivait avec une posture un peu, tu sais, un peu me confronter, puis un peu choc de comme, OK, raconte-moi ça, là, ton histoire d'infiltration. Puis là, quand j'y ai comme dit, ben, c'était aussi juste personnellement pour vivre Occupation Double, faire des voyages. Mm-hmm. Puis il avait comme réalisé que son équipe de recherche avait peut-être pas partagé la bonne information, puis il était un peu déçu. Je pouvais l'entendre dans sa voix qu'il trouvait qu'il perdait son temps dans cette entrevue-là.
Moins choc.
Exact.
Donc, moins saisissant.
Exactement. Bref, merci beaucoup d'être là. C'est un honneur de te recevoir. T'es dans notre télé depuis vraiment longtemps. T'es un de mes analystes politiques préférés. Là,
donc... Attention, c'est important ça. Un de mes versus le préféré. Ça se laisse une porte pour la prochaine ou le prochain invité en disant, mais toi aussi, t'es un de mes préférés.
Exactement. Mais non, c'est ça. Je trouve que t'es tout le temps tellement pertinent. Fait que c'est cool de pouvoir te recevoir.
Aussi rapidement aussi.
Aussi
là,
rapidement,
avec l'actualité, tu dois être quand même en demande ce temps-ci, justement, quand il se passe des choses... En lien avec l'actualité américaine.
Quand il se passe des choses, ouais. il se passe des choses.
C'est sûr que quand le président des États-Unis, c'est Donald Trump, on n'est jamais en vacances comme un analyste politique.
C'est vrai, sauf qu'en même temps, dans les 4 dernières années, Joe Biden était le président, puis on s'ennuyait pas non plus. Ouais. Parce que Donald Trump n'était pas le président, mais il était dans le paysage presque quotidiennement. Fait que ça fait maintenant, mine de rien, 10 ans, mois pour mois, presque semaine pour semaine. C'était le 16 juin 2015 que Donald Trump a descendu le fameux espèce d'escalier roulant à la Trump Tower à New York pour déclarer sa première candidature présidentielle. Ça fait 10 ans qu'on suit ce bonhomme-là sur une base, encore une fois, quasi quotidienne. La question, puis tu sais, on me la posait quand il s'est fait battre en 2020, c'est-à-dire, il y en a plusieurs, moi, j'y croyais pas, mais il y en avait plusieurs qui étaient convaincus qu'il allait vraiment quitter le paysage politique national, puis qui disaient, tu sais, penses-tu que tu vas avoir moins de jobs? Penses-tu qu'on va se désintéresser des États-Unis? Puis ma réponse, c'est-à-dire, je penserais pas. Dans le cas le plus extrême, probablement, ce qui va se passer, c'est qu'on va en parler un peu moins. Mais l'engouement était déjà tellement développé que c'est bête à dire en termes, entre guillemets, commerciaux, mais ton marché est déjà construit.
Ouais, ouais, exact.
Trump va partir éventuellement. Donc, en principe, ce sera dans 3 ans et demi, grosso modo. On va continuer à parler des États-Unis. Mm-hmm. Puis, j'ajouterais ceci. Plus ça, en passant, si on se parle pendant une heure et demie, attendez-vous à ce que je dis, je vais ajouter ceci à de nombreuses reprises. Fait que je vais ajouter beaucoup de choses dans la prochaine heure et demie. Ouais, ouais. Mais de façon sérieuse, il y avait déjà un intérêt avant Trump. Ça, il faut le réaliser. Là. Il y a eu plusieurs événements vraiment choc, je ne vais pas dire positif ou négatif, juste vraiment marquant depuis le début du siècle. Pensez au 11 septembre, la guerre en Irak, le crash à Wall Street en 2008, l'élection de Barack Obama, la première. Bon, ouais. Tout ça, c'est arrivé avant Trump. Et Trump, évidemment, est allé mettre une espèce de dose absolument extraordinaire d'intérêt, de fascination, de scandale, de controverse, bref, d'intérêt qui fait en sorte qu'encore une fois, ce marché-là, il est, sans dire mature, il est établi. Mm-hmm. Qu'on ne va pas arrêter de parler des États-Unis. Et dans tous les cas, même s'il n'y avait plus aucune espèce de figure fulgurante, fascinante, comme Trump peut l'être dans son meilleur et son pire, la réalité, c'est que ça demeure notre voisin.
Mais oui.
Ça demeure le pays le plus puissant de l'histoire de l'humanité, non seulement d'un point de vue économique et militaire, mais d'un point de vue culturel aussi. Culturel, j'imagine que c'est discutable à savoir si c'est le plus puissant de l'histoire, mais c'est certainement le plus puissant de nos vivants. Ne serait-ce qu'à cause de ça, on va continuer à parler des États-Unis, ça c'est évident.
Ouais. Non, c'est fou comment qu'on couvre en fait l'actualité, la politique américaine, presque autant que notre politique canadienne.
Presque plus.
Mais ouais,
souvent c'est plus, honnêtement.
Ouais. Mais en même temps, c'est parce qu'elle a un impact sur nos vies aussi, finalement, puis elle a un impact sur le monde au complet. Là, fait que, on n'a pas le choix de suivre de tout ce qui se passe.
Il y a ça, et je pense qu'il y a un aspect, je veux bien choisir mes mots, pas pour vous sortir une cassette de politicien, mais pour pas heurter des collègues que j'estime beaucoup et qui traitent de politique canadienne. Fait que c'est rien contre eux, c'est certainement rien contre leur profession. C'est important, évidemment, de traiter de la politique d'ici, quand on habite ici. Mais le système politique canadien étant ce qu'il est, là, c'est là que je choisis mes mots, mais je pense qu'il faut utiliser quand même un langage clair qui est d'inspiration monarchique. Je veux dire, c'est ce que c'est. Le système parlementaire canadien, son inspiration, son modèle, en fait, presque calqué de façon pure, c'est le système britannique. Et le système britannique, on va dire, c'est un système parlementaire démocratique. Oui, c'est un système qui est d'inspiration à la base monarchique. C'est pas pour rien qu'il y a autant de pouvoirs qui sont concentrés dans les mains d'une personne et de son entourage, c'est-à-dire le premier ministre et, j'allais dire, son cabinet, c'est même pas vrai. Son personnel, très souvent, les conseillers les plus importants du premier ministre ont plus de pouvoirs concrets.
Son premier ministre,
exactement, que ses ministres et certainement que ses députés. Pourquoi est-ce que je mentionne ça? Le système est hyper opaque au Canada. C'est juste un fait. Okay? C'est pas opaque, on s'entend comme la Russie ou la Corée du Nord. Je suis pas en train de dire que c'est une dictature loin de là. Je suis juste en train de dire qu'aux États-Unis, les pouvoirs sont beaucoup, beaucoup plus fragmentés. Mm-hmm. Le système est beaucoup plus ouvert et il y a beaucoup, beaucoup plus d'opportunités pour la population de participer de façon directe. Regardez la quantité de choix électoraux que les électeurs, les électrices ont dans tous les États et, soit en passant, pas aux 4 ans. Dans des États, on vote à chaque année. Fait que la participation populaire est sans dire qu'elle est plus prononcée, parce que ça, c'est discutable, mais elle est certainement possible à une ampleur plus grande qu'au Canada, ce qui fait en sorte que c'est plus facile aussi à suivre, à rapporter. Il y a davantage de choses, entre guillemets, qui se passent. Mm-hmm. Vous avez des réunions à huis clos, très souvent, avec des hauts fonctionnaires puis des ministres à Ottawa. En bon français, who cares dans le grand public? C'est extrêmement difficile de transformer ça en un contenu qui va être digérable.
Ouais.
Ou c'est quoi le bon mot?
Digeste.
Je me disais, ça marche pas, digeste. Qui va être digeste.
Ouais.
Fait qu'il y a ça aussi. C'est plus facile parce que c'est, entre guillemets, plus le fun aussi très souvent à suivre le show américain que ce qui se passe au Canada.
Tu parles de tous ces choix-là puis de l'impact plus direct de la population, puis tu sais, les plus d'instances décisionnelles aux États-Unis. pourquoi d'abord est-ce qu'il y a un gars qui peut décider de dropper des bombes en Iran sans que personne semble, premièrement, sans que personne ait besoin d'approuver, ouais. Fait que sans que cette décision-là doive passer d'autres instances de légitimité, puis même ceux qui sont supposés être les plus proches de lui, voire le vice-président, et même pas au courant de qu'est-ce qui s'en vient, puis qu'est-ce qui va se passer quand c'est une décision qui a des impacts aussi grand. Tu sais, tu parles de ce système-là, qu'il y a plusieurs couches, mm-hmm. qu'il y a plusieurs votes, que la population a l'impression de pouvoir voter pour plein de monde. À quoi ça sert si au final, c'est un seul gars qui a même pas besoin, qui même... Puis là, le monde, je pense qu'ils savent, le monde qui écoute le podcast savent qu'est-ce que je pense de Donald Trump, mais que même lui, il dit « Nobody knows what I'll do », puis là, genre, qu'il joue un peu avec lâcher des bombes sur un pays. Pourquoi il y a juste une personne qui peut décider s'il y a tout ce système-là? À quoi il sert le système,
en fait,
s'il peut pas régir tout ça?
Je vais prendre la première de ta question. Tu as dit presque mot pour mot. Pourquoi est-ce qu'un type peut? Pourquoi est-ce qu'un homme peut?
Ouais.
Il ne peut pas. La Constitution est floue et grise sur plein d'enjeux. Sur le pouvoir de déclarer la guerre, de lancer le pays en guerre, il faut appeler un chat, ce que les États-Unis ont fait. Ce sont des actes de guerre vis-à-vis l'Iran.
Mm-hmm. De
toute évidence. Ben, pas de toute évidence aux États-Unis. Aux États-Unis, on dit, ben, regardez, tu parles du vice-président, M. Vance. Quand on lui a posé la question à savoir est-ce que les États-Unis sont entrés en guerre contre l'Iran, quelques jours à peine, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, on n'est pas en guerre contre l'Iran. On est en guerre contre le programme nucléaire de l'Iran, comme si on pouvait être en guerre avec un programme. Dans tous les cas, c'est disputé aux États-Unis à savoir est-ce que ce sont des actes de guerre, mais faites l'exercice inverse une seconde. Si c'était trois sites sur le sol américain, un sol américain qui avait été ciblé par des bombes de l'armée iranienne, est-ce qu'il y a un seul doute raisonnable que le gouvernement américain catégoriserait ça de façon claire, sans équivoque, comme des actes de guerre? Évidemment que la réponse est non. Donc, ce sont des actes de guerre et le président n'a pas le droit d'agir comme il l'a fait. Donc, j'allais dire que la Constitution est floue sur bien des enjeux, sur le fait de lancer des hostilités militaires, de partir en guerre. Le pouvoir est donné de façon exclusive aux élus du Congrès et non au président et à son cabinet. Donc, ça, c'est la première chose.
Mais
la deuxième,
pourquoi est-ce qu'on est...
Ce qui se passe avec ça? Ce qui se passe avec ça, c'est qu'on nous sort la même cassette à chaque fois depuis non pas des années, mais des décennies à ce stade-ci. C'est-à-dire, oui, le président l'a fait. Parce que ses prédécesseurs l'ont fait. Mmh. Et c'est vrai, le cabinet de M. Trump, sa porte-parole, ont absolument raison de dire que le président actuel est loin d'être le premier à avoir essentiellement dérobé les pouvoirs du Congrès, se les être appropriés, avoir commencé à bombarder, à envahir, à y aller de frappe offensive contre un pays étranger. Mais en même temps, tout ce que ça change, c'est que Bill Clinton l'a fait en Serbie et au Kosovo dans les années 90, de façon illégale également, que Barack Obama l'a fait en Syrie pendant son deuxième mandat, que Donald Trump l'a fait également en Syrie au début de son premier mandat, qu'il l'a fait cette fois-ci, ça ne rend pas tous ces actes-là moins illégaux. Ça les rend juste plus communs.
Ouais.
Donc, ce sont des actes qui sont rendus communément illégaux et anticonstitutionnels aux États-Unis. Maintenant, la question, ça va être de savoir pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on tolère ça? Mais qui est l'entité principale qui tolère ça? L'entité principale qui tolère ça, c'est l'entité qui accepte qu'on lui prenne son pouvoir, c'est-à-dire le Congrès américain. Et la réponse, elle est assez simple. Sans être trop cynique, il faut être réaliste aussi. Les politiciens, de façon générale, je sais que des fois, vous avez des invités qui sont issus de la sphère politique, rien contre eux. C'est davantage quelque chose contre leur profession, mais c'est simplement un fait. C'est documenté depuis des générations et c'est juste c'est le gros bon sens. Là. C'est pas le seul incitatif, mais l'incitatif numéro un d'un politicien et d'une politicienne typique, il y a des exceptions comme dans n'importe quoi, c'est d'être élu puis d'être réélu. Une fois que tu es réélu, d'être réélu encore, jusqu'à temps qu'éventuellement tu te dises « Je regarde mes sondages internes, je risque de me faire battre la prochaine élection, alors je vais sortir en point de presse puis je vais faire une grande annonce comme quoi j'ai besoin de temps pour ma famille.
Ouais. »
Bon, je veux dire, on connaît la cassette à un moment donné. Là.
On va l'avoir bientôt arrivé ici.
Ouais. C'est possible. Je n'irai pas de prédiction sur la politique québécoise et canadienne, mais c'est pas impossible. Dans tous les cas, pour un membre du Congrès, il y a quelque chose qui est extraordinairement risqué politiquement pour sa carrière politique, de voter pour une guerre. Parce que si la guerre, l'intervention, sans que ce soit une guerre énorme, si l'intervention vire au vinaigre, la personne, évidemment, après coup, elle est imputable. Mm-hmm. Je donne un exemple. une des très, très rares instances depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale où le Congrès s'est prononcé. Maintenant, il y en a qui vont dire que ce n'était pas une déclaration de guerre, peut-être, mais au moins, il y avait eu un vote dans les deux chambres du Congrès pour autoriser le président à utiliser l'armée, en sol étranger. C'était à l'automne de 2002. Au Sénat, à la Chambre, on a voté pour autoriser au président Bush, donner l'autorité au président Bush d'utiliser la force s'il le souhaitait en Irak. Une des personnes qui a voté pour cette autorisation-là en octobre, je me mémoire, 2002, était une certaine Hillary Rodham Clinton, sénatrice à l'époque de l'État de New York, sénatrice démocrate. La moitié à peu près du caucus démocrate avait voté pour la guerre en Irak. Presque tout le caucus républicain. 6 ans plus tard, Hillary Clinton, en fait un peu même avant ça, 7 ans plus tard, 5 ans plus tard, pardon, 2007-2008, elle se présente pour la présidence américaine dans des primaires face à un certain Barack Obama.
Ouais.
Elle et Obama sont très, très, très proches idéologiquement un de l'autre. Pas beaucoup de différences sur les programmes là, entre les deux. Une des différences fondamentales, c'est que lui, qui n'était pas encore un sénateur américain, n'avait pas voté pour la guerre.
Il n'avait pas eu l'occasion.
Il n'avait pas eu l'occasion. Et encore mieux pour lui, on avait des images, des vidéos d'archives de lui qui, à la même époque où elle votait pour la guerre, lui la dénonçait. Mmh. Et elle ne pouvait pas simplement dire « Oui, j'ai tenu des propos, mais en réalité… » Non, non. Il y a un vote. Un vote, c'est indélébile.
Ouais.
Donc, ça lui a collé complètement à la peau. Ça n'a pas été le seul facteur, mais c'était un facteur fondamental.
Durant la primaire
démocrate. La primaire démocrate qu'elle a perdue, alors qu'elle était largement favorite. Donc, ça, c'est juste une illustration pour vous dire, pour un membre du Congrès, c'est risqué de voter pour une intervention militaire. Et évidemment, si tu votes contre, le risque aussi, c'est d'être dépeint comme étant mou face à un pays hostile, un régime dangereux, etc. Donc, les membres du Congrès, de façon majoritaire, ce qu'ils préfèrent faire depuis maintenant des années, pour ne pas dire encore une fois des décennies, c'est dire au président,
vas-y.
Ouais. Et c'est ça qui se passe présentement. Donc, il n'a pas le droit d'agir, mais il le fait. Puis, on parle de l'aspect illégal et anticonstitutionnel de la chose. Il y a aussi, et je le mets en énorme guillemets, l'aspect préventif de la chose. Je parlais de la guerre en Irak il y a un instant. Il y a 20 ans, okay, quand vous étiez au primaire, probablement. Beaucoup plus vieux que vous, mais dans ces âges-là, la différence, elle compte.
Oui, quand même.
Début secondaire, quand même.
Bon, j'étais à l'université, puis c'était partout. Le débat sur la guerre en Irak, le président peut-il vraiment frapper, pas juste avec des
ouais, c'est sûr, nous, on ne parlait pas vraiment de la guerre en Irak.
Pas à ce moment-là.
On entendait parler, mais est-ce qu'on comprenait ce qui se passait?
On ne prenait pas vraiment position.
Non, c'est ça, à cet âge-là. Ouais. À l'université, à peu près tout le monde prenait position, puis ici, très, très massivement, les gens étaient contre. Puis une des choses qui était reprochée continuellement au président de l'époque, M. Bush, c'était de dire... L'Irak n'a jamais attaqué les États-Unis. Mm-hmm. L'Irak n'a jamais, de façon sérieuse, menacé d'envahir et d'attaquer en sol américain les États-Unis. Donc, comment est-ce qu'on peut non seulement lancer des bombes, mais carrément envoyer des dizaines de milliers de soldats dans une invasion terrestre contre ce pays-là qui ne nous a pas attaqués? Et c'était tellement vu comme étant novateur et radical comme approche qu'on avait donné le nom « Doctrine Bush ». C'était une doctrine, tellement c'était encore une fois spécial à l'idée de commencer à se lancer dans des guerres, entre guillemets, préventives, proactives.
Ouais.
On juge que l'autre est menaçant, sans même qu'il nous ait attaqué, on l'attaque. Bon. Là, on avance 20 ans plus tard et on fait essentiellement la même chose. C'est pas une invasion.
La main en forme.
C'est le même concept. Et c'est comme si c'était, ah ben, on l'a déjà fait, pourquoi pas?
Ouais.
Et quand on parle d'actes d'agression, l'histoire ici est intéressante. Je sais qu'on a plus de temps qu'à la télévision, mais en même temps, je ne vais pas vous donner un cours de 3 heures.
C'est passionnant,
c'est
continue.
Parfait, oui.
C'est dangereux de me dire ça. Je veux vraiment passer mon 3 heures.
Si on parle pas par 1 heure et quart, c'est pas grave.
Okay.
Tu peux y aller. Même mieux.
C'est vrai, c'est plus facile. Je fais la job à votre place. La mienne et la vôtre. OK. Là, ça veut dire que la prochaine fois, vous ne m'offrez pas un café, c'est du champagne que ça prend. Si je travaille à ce point-là. Non, mais je vais quand même dire ceci, parce qu'il y a une chose, tu sais, je parlais de la télévision, c'est rien contre la télévision, le format est fait comme ça, on a peu de temps. Même chose pour la radio, c'est encore plus vrai pour les médias écrits comme les journaux, de façon générale. On est toujours collé sur le « here and now » en français. Voici ce qui s'est passé hier, voici ce qui se passe aujourd'hui, voici ce qui va peut-être se passer demain, allez spéculer.
Mm-hmm. Bon.
Pour comprendre où est-ce qu'on est, où est-ce qu'on s'en va, il faut savoir d'où on arrive.
Absolument.
Et on n'a pas le temps très souvent, pas assez souvent en ce qui me concerne, d'expliquer les contextes. En politique internationale, c'est fondamental. C'est tellement facile de dépeindre une situation comme étant c'est noir d'un côté, blanc de l'autre. Il y a un bon, il y a un méchant. Il y a notre allié, il y a l'ennemi. Dans certains cas, le monde est noir et blanc. Mais de façon générale, c'est assez rare. Mm-hmm. Très souvent, il y a des motivations qui sont complexes. Les gens sont gris. Encore une fois, ils ne sont pas noirs et blancs. Bref, dans le cas des relations américano-iraniennes, on pourrait parler d'Israël aussi dans tout ça, là, mais si on se limite juste aux deux pays principaux dont on parle depuis tantôt. Il y a un pays qui s'est ingéré dans les affaires de l'autre en premier lieu. C'est pas les Iraniens qui ont commencé à s'ingérer dans les affaires des États-Unis. Ce sont les États-Unis qui ont commencé à s'ingérer dans les affaires de l'Iran. Il faut comprendre que l'Iran était, jusqu'au milieu du 20e siècle, un protectorat britannique. En 1900, ça, c'est connu à peu près personne, et c'est tellement important de comprendre, de le savoir. En 1909, la compagnie BP, vous connaissez British Petroleum, une des plus grandes compagnies pétrolières au monde depuis un peu plus d'un siècle. BP s'appelait en fait à l'époque la compagnie pétrolière anglo-perse.
Quand ça?
En 1909, au début du 20e siècle. Okay. En 1935, je vais de mémoire, là, c'est dans les années 30, j'en suis certain, là, on a rebaptisé cette compagnie-là la compagnie pétrolière anglo-iranienne. En 1954, on la rebaptise à nouveau. Et là, comment on l'appelle? Essentiellement BP. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui s'est passé entre le premier rebaptême et le deuxième? L'Iran s'est doté démocratiquement d'un leader, M. Mossadegh, qui voulait nationaliser l'industrie pétrolière. Les géants, et c'était pas juste BP, on appelait ça les sept sœurs, les Seven Sisters, les plus grands joueurs du monde pétrolier, pensez à Exxon, Mobil, Shell, etc., et BP, évidemment. Chevron, je l'ai mentionné aussi. Se sont mis ensemble, ils se sont dit, on peut pas avoir ça. C'est inacceptable. On a un deal avec ce régime-là, comme on en avait avec l'Irak, avec le Koweït, avec la Libye, etc., avec les Saoudiens, puis on a dit, c'est intolérable. Et donc, le gouvernement américain, de tandem avec le gouvernement britannique, dans une opération qu'on a surnommée l'opération Ajax, A-J-A-X, a renversé ce type-là qui avait été élu de façon démocratique. Il a fini sa vie en prison, sauf erreur, il est mort en prison. Okay?
Il a été élu de façon démocratique, mais son régime était un régime...
était un régime démocratique. Était un régime qui n'a pas duré longtemps parce qu'on l'a vite renversé. Mais ce qui est intéressant, ce qui est important, en fait, ce qui est crucial de comprendre, c'est par quoi on l'a remplacé. Les Américains et les Britanniques l'ont remplacé par ce qu'on a appelé le régime du Shah, qui, lui, est un régime brutal, oppressif, autoritaire, qui a été en place en Iran pendant un quart de siècle, de 53 jusqu'à 79. Qu'est-ce qui se passe en 79? Il y a une vague de colère qui ne peut plus être contenue en Iran contre les Occidentaux, les Britanniques, les Américains, les Israéliens. Et on renverse ce régime-là, et là arrive ce qu'on surnomme la révolution islamiste. Donc, les gens qui sont les faucons, entre guillemets, les gens les plus agressifs aux États-Unis précisément contre l'Iran, qui disent on doit les frapper parce que c'est un régime hostile, c'est un régime qui est ennemi, il nous menace, etc. Et très souvent, ils commencent l'histoire en 79 en disant ça fait 45-46 ans qu'ils sont hostiles. Oui. Mais pourquoi?
Ouais.
L'histoire n'a pas commencé en 79, elle a commencé avant 79. Maintenant, est-ce que ça veut dire que depuis 79, ce régime-là qui est en place actuellement à Téhéran n'est pas oppressif, n'est pas brutal? Non, il l'est. C'est un régime qui est sauvagement autoritaire. Donc, encore une fois, le monde n'est pas noir et blanc. Je suis en train de vous dire les Iraniens sont blancs, les Américains sont noirs. Au contraire, bon, méchant, non. Mais c'est complexe. Donc, tout ça pour vous dire que la première main qui s'est mis dans la sauce de l'autre, c'était les Britanniques et les Américains qui sont mis dans la sauce des Iraniens. Donc, il y a de la colère aujourd'hui. Est-ce que c'est compréhensible? Oui, c'est compréhensible. De un et de deux, de voir que dans tout ce contexte-là, ce sont les Américains qui frappent militairement avec des bombes sur le territoire iranien et non l'inverse. Qu'est-ce que vous pensez que ça cause sur le terrain? Pour tous ceux et celles en Occident qui se disent on va les ramener à la table de négociation, ils vont pratiquement supplier pour arriver à un deal et se désarmer unilatéralement parce qu'ils vont avoir peur de nous. J'ai aucun doute qu'il y a de la peur en Iran présentement. Il n'y a personne qui veut se faire bombarder. Mais si vous êtes le régime iranien, encore une fois, essayez de faire preuve, quand je dis essayez, c'est pas vous, là, c'est pas vous personnellement, de façon générale. C'est tellement facile, encore une fois, de regarder les choses avec notre lorgnette uniquement. C'est sûr que culturellement, politiquement, on est beaucoup plus proche des Américains, de façon générale, que de ce régime iranien-là actuel. Mais si, comme un bon analyste, je crois, devrait le faire, on essaie de se mettre pour comprendre, pas pour de devenir partisan de l'autre, mais comprendre sa perspective pour pouvoir comprendre tous les tenants aboutissants, qu'on essaie de se mettre à la place du régime iranien aujourd'hui. On regarde les régimes qui étaient autour. Par exemple, Saddam Hussein en Irak, Muammar Kadhafi en Libye. Ces régimes-là qui n'avaient pas d'armes nucléaires.
Ouais.
En fait, dans le cas de Kadhafi, c'est pas juste qu'il n'y a pas d'armes nucléaires. Les armes les plus dangereuses, son arsenal d'armes les plus dangereuses qu'il avait, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a proactivement renoncé en disant essentiellement, je simplifie, là, mais je renonce à mes armes en échange de quoi vous intervenez pas dans mes affaires. Laissez-moi tranquille. Ouais. Et qu'est-ce qui s'est fini qu'est-ce qui s'est passé dans les deux cas? Invasion, bombardement, les deux régimes renversés et les deux leaders littéralement morts. Dans le cas de Kadhafi, traîné dans les rues de son pays. À l'autre bout du monde en même temps, La dynastie des Kim en Corée du Nord a l'arme nucléaire depuis maintenant quelques décennies.
Personne, tout le monde les laisse tranquilles.
Les Américains les laissent tranquilles. Il y en a qui vont dire qu'il y a eu des sanctions. Trump a parlé contre Kim Jong-un. Je comprends, il y a de la rhétorique. Mais concrètement, personne qui parle d'envahir ou de bombarder la Corée du Nord.
Puis c'est attribué vraiment à ça, en fait? Ben, ou c'est parce qu'il n'y a pas d'autres avantages? Tu sais, il n'y a pas la question peut-être du pétrole ou de d'autres...
C'est une excellente question. Ça, rendu là, j'imagine que c'est discutable. Ce qui me semble moins discutable et plus indéniable, c'est que si vous êtes le régime iranien, une des leçons, peut-être pas la seule, mais une des leçons principales que vous allez tirer de ça, c'est quoi? Mon incitatif, notre incitatif, c'est pas de se désarmer, c'est de s'armer.
Ça nous prend l'arme nucléaire.
Ça nous prend l'arme nucléaire. Et en fait, les dernières semaines, avec les frappes israéliennes puis les frappes américaines, nous encouragent encore plus à l'avoir. Fait qu'il y a ça aussi qu'il faut essayer de comprendre, leur perspective. Donc, je comprends la perspective des Israéliens, certainement, qui se disent, si ce régime-là, qui souhaite notre destruction depuis sa première heure d'existence, finit par l'avoir, c'est carrément notre existence sur cette planète qui va être menacée. Je comprends cette perspective-là. La seule chose que je vous dis, c'est il y a la perspective aussi de l'autre côté, qui fait en sorte que cette histoire-là, elle n'est pas terminée. Personne ne peut vous dire comment elle va se terminer. Je peux juste vous dire, elle n'est pas terminée. Donc, on a le président et son entourage qui disent, le président américain et son entourage depuis un jour, qui disent, le programme a été complètement oblitéré.
Ouais.
C'est discutable, là, ça aussi, mais dans tous les cas, même si à la limite, il l'avait été, l'histoire n'est pas terminée.
Ouais.
Puis du point de vue américain, tu sais, est-ce qu'il y avait d'autres alternatives? Tu sais, dans le sens qu'on a cette puissance-là qui est l'Iran, qui est un... c'est un ennemi ou du moins c'est tendu avec eux, qui développe l'arme nucléaire. On avait dit qu'on voulait pas qu'elle développe, il la développe quand même. C'est un régime autoritaire, répressif, tout ça. Est-ce que du point de vue américain, on n'avait pas d'autre choix que d'intervenir puis d'essayer de freiner, détruire ça? On aurait pu aussi laisser ça faire puis se dire... j'ai mes armes, t'as tes armes.
Je souris pas parce que la question est bête. En fait, je souris pour deux raisons. La première, c'est que vous m'avez laissé donner une première réponse qui, je me suis pas timé, ça a dû durer à peu près 10 minutes. Si vous saviez combien je payerais cher de ma propre poche pour pouvoir avoir ce temps-là quand je suis à la télévision, hein, merci, ça met juste de bonne humeur en partant.
C'est super.
Fait que, de un, il y a ça. De deux, la question me fait sourire aussi parce que, évidemment, que différentes personnes vont vous répondre différentes affaires.
Ouais. Ouais.
Donc, les faucons, ceux qu'on surnomme les faucons à Washington, qui veulent une approche plus agressive, plus proactive en matière de politique étrangère, vont vous dire « on était nous-mêmes acculés au pied du mur. » C'est pas vrai qu'on allait attendre que ce régime-là devienne justement comme le régime nord-coréen, qu'il ait une arme, puis là qu'on puisse pas... Bon.
Est-ce qu'on peut laisser tous les pays s'armer d'armes nucléaires?
La première question était déjà pas évidente, là, celle-là est comme impossible. En fait, c'est-tu quoi? Je vais prendre la deuxième rapidement. Parce qu'on peut pas y répondre de façon... définitive. Encore une fois, les gens les plus idéologiques, catégoriques vont dire oui d'un côté, non. La réalité est très, très grise. Je sais pas si vous avez vu le film Oppenheimer. Le chef-d'œuvre Oppenheimer. Quel grand film.
Je l'ai écouté dans un avion, fait que mon expérience était vraiment pas...
OK, là, je m'amuse à date, là, je vais partir. Ça me brise le cœur. Qui fait ça? Regardez ça!
C'était en plus avec les écouteurs qu'ils donnent puis que tu plugues le son, c'était nul à chier.
Déjà, en partant, si tu dis qu'ils t'es ont donné,
ouais,
t'es plus chanceux que la plupart des clients qui doivent payer pour avoir ces écouteurs de MR, bon, dans tous les cas, ça me brise quand même le cœur dans un avion.
Ouais, moi aussi, parce que c'est pas le genre de film que tu réécoutes, tu sais, c'est comme, c'est long, puis c'est, tu sais, c'est...
Ça dépend pour qui. Bref, les gens normaux, ils le regardent pas. Moi, je suis rendu à 3. J'ai pas fini, j'ai rendu que j'ai la maison. Dans tous les cas, non seulement je l'ai regardé plusieurs fois, je suis encore dans la catégorie maintenant minoritaire de losers qui ont encore des DVD. Pas des DVD des années 2000 qui gardent, non, des nouveaux DVD que je continue à acheter. Exact. Dans tous les cas. Puis pas Blu-ray. DVD, c'est encore pire. OK. De façon sérieuse, pas que ça ne l'était pas. Dans
j'ai trois Blade Runner. J'ai Blade Runner en DVD, j'ai Blade Runner en DVD HD, puis j'ai Blade Runner en Bluetooth, en Blu-ray.
Attends, t'écoutes les trois dans la même journée.
Pendant une seconde, j'ai espéré que tu disais j'ai Blade Runner aussi en VHS. Génération est trop loin. Okay. Ouais. Dans Oppenheimer, dans le film comme dans la vraie vie, il y a ce débat central-là, à savoir, est-ce que le fait d'avoir une arme nucléaire va augmenter ou réduire la sécurité de la planète? Et un des arguments de Robert Oppenheimer, c'est-à-dire à partir du moment où on a cette arme-là, ça va avoir un tel pouvoir de dissuasion que les longues guerres interminables qui ont marqué le 20e siècle vont être choses du passé. Là, je te vois hacher dans le sens non, t'es pas d'accord. Je dis que c'est son argument. L'autre argument, vous le voyez venir, évidemment, c'est de dire non, c'est parce que si t'as une course vers l'armement nucléaire, ça prend une erreur. Une personne qui va d'un mauvais calcul ou qui est complètement erratique, qui est irrationnelle, bon, Et là, c'est la fin du film. Pour ceux qui se rappellent de la toute dernière scène extraordinairement troublante, qui suggère que là aussi, l'histoire est peut-être pas terminée.
Ouais.
Bon, ça prend pas un génie pour comprendre comment ça peut finir. Fait qu'il y a cette question-là qui est pas évidente. La première question que tu avais posée avant ça, c'est de savoir, est-ce qu'il y avait une alternative? Est-ce que les États-Unis auraient pu faire autre chose? Oui, ils auraient pu faire autre chose. Et ce qui était intéressant, c'est que quand tu entends M. Trump parler depuis les frappes qu'il a ordonnées, il dit... Maintenant, les Iraniens vont avoir un incitatif à revenir. Non, pas à revenir, à venir à la table de négociation. Mais c'est ça le point. Les Iraniens, avant les frappes américaines et israéliennes qui ont précédé, étaient à la table de négociation. Il y avait de la diplomatie entre les Américains et les Iraniens. Maintenant, Trump va dire, on leur a donné 60 jours. À 61 jours, on ne s'était pas entendu, donc on avait le droit de les bombarder. OK, le droit, premièrement, encore une fois, non, il n'y avait pas le droit, mais disons qu'il y avait le droit. Le simple fait, c'est quand même qu'il y avait encore le potentiel de négocier. Les Iraniens n'avaient pas renoncé à la négociation. Et au final, qu'ils veuillent négocier maintenant ou il y a 3 mois, qu'est-ce qu'on espère vraiment obtenir de façon réaliste du côté américain? Pourquoi est-ce que je pose la question? Parce qu'en date d'aujourd'hui, je serais vraiment intéressé que qui que ce soit dans une position d'autorité me montre de façon claire en quoi un accord réaliste à l'heure actuelle entre le régime iranien et le gouvernement américain pourrait ressembler à quelque chose de vraiment foncièrement différent de l'accord que Trump lui-même a déchiré sur le nucléaire iranien dans son premier mandat. L'accord que Barack Obama avait paraffé, Trump fait campagne la première fois en disant « je vais le déchirer », est élu, le déchire. OK, donc est-ce qu'on revient à l'accord la case départ ou est-ce qu'on fait quelque chose de vraiment nouveau où l'Iran y va de concessions beaucoup plus importantes? En date d'aujourd'hui, il n'y a à peu près rien qui nous permet de conclure qu'on se dirige, on se dirigera, je vois tous les temps de verbe, vers un accord qui aurait été vraiment, vraiment différent et beaucoup plus avantageux pour les Américains. Fait qu'encore une fois, qu'est-ce qu'on fait présentement? À quoi ça sert? C'est vraiment une question ouverte.
Ouais.
Encore une fois, c'est pas fini.
Puis, les Iraniens, quels sont leurs... En ce moment, c'est quoi leur objectif? C'est quoi qu'ils veulent faire en ce moment? C'est quoi qu'on peut imaginer qu'ils veulent faire? C'est quoi la posture qu'ils ont dans ces négociations-là? Qu'est-ce qu'ils veulent laisser? Qu'est-ce qu'ils veulent garder? J'ai de la misère à saisir cette partie-là.
Quand tu parles des Iraniens, tu parles du régime iranien?
Du régime iranien,
parce que surtout dans un régime de la sorte, dans un pays de la sorte, il y a un débat à savoir est-ce que le régime parle vraiment au nom de la population? Ouais. Bon. Si on parle du régime iranien, c'est pas évident. Qu'est-ce qu'il veut? Puis tu sais, c'est pas un régime qui est complètement monolithe. Là, non plus, je suis pas sûr. Monolithe ou monolithique?
Monolithique.
Un monolithe, c'est un nom.
Ouais, un monolithique,
c'est l'adjectif.
Ouais.
Okay. C'est quand même pas si pire, celle-là, je me suis repris moi-même.
C'est un beau mot, par exemple. Bravo.
Quand même. Pense pas qu'au Scrabble, ça vaut tant que ça, par exemple. À part peut-être le Q.
Ouais. Il est long, c'est qu'il est long.
C'est plus
long
que cette lettre, mais en tout cas, tu pourrais y arriver quand même.
Ouais. Ouais, ce serait difficile, ça aussi. Dans tous les cas, vous voyez, je peux pas faire ça à la télévision. Si je commence à partir sur une tangente, non, c'est sûr, je me fais rappeler à l'ordre. Ça prend pas 30 secondes avant que ça arrive. OK. Dans tous les cas. C'est une raison en même temps pourquoi on fait ça de façon plus scindée à la télévision. Ça évite les impertinences comme celles que je viens d'avoir. OK, donc, c'est pas un régime qui est complètement monolithique non plus. Donc, c'est pas évident et c'est opaque aussi comme système. Ouais. Fait qu'est-ce qu'ils veulent vraiment? Je vais répéter ce que je vous ai dit tantôt. C'est-à-dire que je pense que l'incitatif qu'ils ont, c'est de continuer vers un armement et non pas un désarmement. Ouais. Maintenant, est-ce qu'il pouvait y avoir quand même une certaine volonté de bonne foi à, par exemple, négocier une fin ou une réduction des sanctions qu'on impose aux Iraniens depuis longtemps, au régime iranien, au pays? Oui, potentiellement. Mmh. Est-ce qu'il y a un intérêt pour certains, je ne dis pas tous, mais certains au sein de ce régime-là, de voir les tensions réduites? Oui. En même temps, et c'est là que ça devient super complexe, comme pour à peu près n'importe quel régime, surtout de cette nature-là, il y a un incitatif constant à garder un climat de conflit constant avec l'ennemi juré qui est Israël et que sont les États-Unis.
Ouais.
Parce qu'évidemment, quand vous avez cet ennemi, cette menace-là constante, ça aide à coaliser une partie non négligeable de la population derrière vous. Et soit dit en passant, je comprends que ce n'était pas la question, mais ça, je le mentionne proactivement. On a, moi, je vais être peut-être trop généralisateur là-dessus, là, mais on a une fâcheuse tendance en Occident de façon générale à sursimplifier une espèce de dichotomie démocratie versus dictature, en disant il y a blanc d'un côté, noir de l'autre, puis encore une fois, c'est dichotome, c'est binaire. T'es 100% un, t'es 100% l'autre. La réalité n'est pas aussi simple que ça. Maintenant, est-ce qu'il y a une équivalence morale parfaite? Non. Avoir à choisir, est-ce que mes droits comme individu sont davantage protégés aux États-Unis, au Canada ou en Iran? poser la question, ça vient un petit peu à y répondre. Sauf qu'en même temps, est-ce qu'un régime dictatorial, un régime autoritaire peut complètement, sur le très long terme, se permettre d'ignorer les préférences de sa population? Mais la réponse, c'est qu'il peut essayer, mais il va jouer avec le feu. Et un régime autoritaire qui joue avec le feu avec sa propre population, vous savez qu'est-ce qu'il risque? Il risque pas de se faire battre aux élections, lors de la prochaine élection. Il n'y a pas d'élection libre et ouverte. Il risque une révolution, et plus souvent qu'autrement, une révolution brutale, violente, dans laquelle les leaders peuvent carrément... On a vu le cas de Kadhafi, etc., que je mentionnais il y a un instant. De l'autre côté, même un régime qui est vu comme étant démocratique n'est pas parfaitement démocratique. La réalité, c'est qu'une démocratie, là, quand vous regardez les racines du mot, c'est pouvoir à la population, pouvoir au peuple. Nommez-moi un pays dans le monde, que ce soit aujourd'hui, il y a 50 ans, il y a 200 ans, qui opère vraiment complètement avec cette approche-là. Ça n'existe pas. Et peut-être que ça n'existera jamais dans l'histoire de l'humanité, on verra. Dans tous les cas, on est à quelque part entre les deux, dans les deux cas. C'est juste qu'il y en a un qui est beaucoup plus loin sur le spectre que l'autre. Bon. Pourquoi est-ce que je mentionne ça? Parce que pour le régime iranien, il y a quand même un incitatif de garder une partie de la population iranienne, une partie importante derrière lui. Et le fait d'être dans un état de conflit perpétuel face aux Occidentaux, aux Américains, aux Britanniques, aux Européens, aux Israéliens, etc., c'est payant par rapport à ça.
Ouais. Le conflit, on l'a vu ici, là, le conflit, c'est l'élément rassembleur numéro un. Là. Du jour au lendemain, tout le monde était rangé derrière Mark Carney quand que Donald Trump s'est élevé comme ennemi. Là.
C'est tellement facile. Ouais. C'est tellement facile. Parce que le comportement humain est extrêmement imprévisible à plusieurs égards et à plusieurs autres, il est extrêmement simple. Ouais. Et ça, l'espèce de tribalisme animal, stupide dans le sens où il y a très, très peu de réflexion. C'est une espèce de réflexe d'instinct animal de dire « ma tribu, j'appartiens à une tribu. Pourquoi j'appartiens à une tribu? Parce que seul dans la jungle, je ne peux vraiment espérer survivre. Donc, je me joins à un groupe. Mon groupe est menacé par un autre groupe. Qu'est-ce que je fais? Je me rallie au leader de mon groupe. » Puis on le voit à tellement de reprises, dans tellement de sphères différentes de la politique, à la fois au niveau des relations internationales et de la politique interne. Tu sais, tu viens de mentionner l'exemple canadien face à Trump. C'est tellement évident. Je vais vous en donner un autre. De l'autre côté du spectre. Regardez quand Trump s'est fait inculper la première fois pendant la campagne de 2024. On est en mars 2023, sauf erreur, fin mars 2023. Première inculpation dans la cause, entre guillemets, Stormy Daniels à New York. Bon. Tellement de commentateurs.
Non, je sais comment.
Ouais, oui, ça l'est. Ça l'est. Ben, cette histoire-là, parmi d'autres.
La cause Stormy Daniels.
Oui, je sais.
C'est ridicule.
C'est tellement bon.
Tu sais que l'émission 60 Minutes. Mm-hmm. Peut-être certainement des plus prestigieuses de l'histoire du médium télévisé, a eu comme épisode le plus populaire de son histoire la première entrevue exclusive avec Stormy Daniels.
Ouais,
une vedette porno qui dit avoir couché avec le président des États-Unis.
C'est fou.
Qui dit avoir couché parce que lui le nie encore.
Ouais.
Donc, je n'étais pas dans la pièce.
Ouais.
Je veux juste dire, s'il y en a qui croient la version du président, attention à ce que vous achetez. Je veux dire, c'est... Mais dans tous les cas, dans la cause Stormy Daniels, il se fait inculper la première fois et tellement de commentateurs qui disent « c'est la fin ». Tu sais, comme on l'a calé tellement de fois. Cette affaire-là va le couler. Je disais, tu sais, faut-tu pas comprendre l'électeur républicain américain pour avoir ce réflexe-là de le dire, ça va le couler. C'était tellement écrit dans le ciel que ça allait créer non seulement un effet qui allait pas être négatif, mais qui allait être positif pour lui. Ouais. C'est exactement ce qui s'est passé. On a vu les sondages, il était dans plusieurs États au coude à coude à l'époque, là, au printemps 2023, avec Ron DeSantis, le gouverneur républicain de la Floride, qui était vu comme l'espèce de vent de changement. Bon, un style un peu Trump, mais en même temps sans le bagage, toute la controverse de Trump, etc. Bon. Trump se fait inculper en l'espace de 2 semaines. Ça fait... Trump monte, DeSantis s'écrase et DeSantis n'a jamais remonté. Puis quand on lui a posé la question à la fin de sa campagne, pourquoi ça a planté autant que ça? C'est pas qu'il a mené une campagne sans difficulté, clairement, mais il a dit, je pense qu'il a raison sur le fond. Il n'y a probablement pas grand-chose que j'aurais pu faire à partir du moment où Trump s'est fait inculper, tellement l'effet de ralliement tribal était fou exactement. Ouais. Puis, tu sais, on peut parler de sondage, on sonde des centaines et des milliers de personnes. Je ramène toujours ça dans ce cas-ci à une électrice républicaine du Michigan qu'on avait interrogée à l'époque, qui avait dit, je la cite presque mot pour mot, « J'étais vraiment intéressée, ouverte à appuyer M. DeSantis. J'étais prête à tourner la page après 2 campagnes de Trump. On était dans 3e. » Mais à partir du moment où ils s'en sont pris à mon président, je l'ai défendu. Elle a fini par voter pour Trump dans les primaires. Ça, c'est une personne, mais qui est emblématique de tellement de personnes. Et c'est un effet de ralliement qui est emblématique de plein d'autres effets de ralliement. Ce qui fait en sorte aussi que c'est extrêmement difficile, puis là, sans devenir trop philosophique, trop profond, trop tôt dans la discussion. C'est un des, pas le seul, mais c'est un des facteurs qui rend la paix dans le monde extraordinairement difficile à atteindre. Parce que vous allez presque toujours avoir un incitatif quand vous voulez soit vous maintenir au pouvoir ou vous élever au pouvoir de faire la paix.
Mm-hmm. Ça prend un ennemi.
Ça prend souvent un ennemi. Mm-hmm. Tu sais, encore une fois, parce que les exemples sont tellement, tellement grands. Mais tu sais, on parle depuis un quart de siècle, 30 ans à peu près, de polarisation aux États-Unis. Qu'est-ce qui est arrivé il y a 30, 35 ans? La chute du mur de Berlin. La fin de la guerre froide. Encore une fois, est-ce qu'on va dire, est-ce que c'est le seul facteur? Non, c'est pas le seul facteur. Mais le timing est quand même assez spécial. Qu'on commence à avoir une polarisation qui explose
quand
à partir...
Quand il n'y a plus d'ennemis ailleurs.
À partir du milieu des années 90, quand il y en avait qui disaient les États-Unis étaient tellement le seul acteur, le seul hégémon dans le système qu'ils se cherchaient quasiment des pays à bombarder, tellement que c'était pas évident parce qu'il n'y avait plus d'ennemis communs évidents. À partir du moment où ça arrive, on commence à avoir un effet de polarisation qui explose. Mmh. Encore une fois, c'est un timing qui est particulier.
Ouais.
Qui est particulier.
Mais pourtant, la base de Donald Trump n'est pas particulièrement pro-guerre. À ce que je sache, il a été élu en fait en disant « Moi, je ne me mêlerai pas des conflits étrangers. Ouais. C'est pas nos problèmes. On ne mettra pas d'argent là-dedans. » Puis là, c'est exactement ce qu'il fait. Puis finalement, sa base n'est pas tellement contente avec ça.
Ça faut faire attention avec ça quand on parle de sa base. Puis là, je le dis pas par manque de respect envers ses électeurs et ses électrices. Je pense qu'encore une fois, il faut faire preuve d'empathie. Quiconque qui dépeint 77 millions de personnes, parce que c'est le nombre de personnes qui ont voté pour lui, comme étant tous des ci puis des ça, des pourris, des imbéciles, bon, on connaît le lexicon. Là.
Non, mais des groupes comme, j'entendais les Proud Boys, exemple, qui ont dit, ben là, si tu vas en Iran, nous autres, on t'appuie plus. Pis...
On verra par rapport à ça. C'est ça que j'allais mentionner. Quand on regarde l'ensemble de ces personnes-là, ce ne sont pas tous des gens qui sont comme dans un culte, sauf qu'en même temps, je pense que c'est aussi faire dans le déni ou pas comprendre ce qui se passe au sein de ce parti-là, du Parti républicain, depuis la dernière décennie pour ne pas réaliser qu'il y a une dynamique de culte de la personnalité.
Ouais. Mm-hmm.
Et dans un culte, dans n'importe quel culte quoi à peu près, le leader, par définition, ne peut pas avoir tort. Et ce qu'on voit depuis la dernière semaine, c'est une illustration de ça. Des gens qui avaient une position, puis là, je ne parle pas juste des électeurs ordinaires, même des gens qui ont des micros dans l'espèce d'univers médiatique MAGA, le mouvement trumpiste, qui se disait complètement opposé à une intervention militaire en Iran et qui, du jour au lendemain, applaudissent le président d'avoir frappé l'Iran parce qu'ils ne peuvent pas se rallier à une cause autre que celle du leader. Et c'est ça qui est, pour plusieurs, inquiétant, d'autres, d'un point de vue presque simplement de psychologie humaine, fascinant, de voir à quel point ce type-là peut faire en sorte qu'on se contorsionne idéologiquement juste pour continuer à l'appuyer. Il dit blanc un jour, blanc. Noir le contraire, noir. Rouge le surlendemain, ça devient rouge. Et beaucoup, pas tous encore une fois, mais beaucoup de ses supporters vont le suivre à peu près, peu importe ce qu'il fait. On l'a vu évidemment suite aux élections de 2020, l'insurrection au Capitole, où son taux d'approbation au sein de l'électorat républicain n'a à peu près pas bougé. Maintenant, on dira que ça, c'était pas une différence idéologique. Peut-être pas, mais il reste qu'il a quand même été responsable d'actes qu'on n'aurait jamais pensé voir aux États-Unis et on l'a quand même suivi. On a continué à le suivre en bloc. Là, maintenant, pour ce qui est des frappes, est-ce qu'il contrevient à sa propre philosophie? Il y en a qui vont vous dire non, qui avait toujours dit qu'il était contre le fait que l'Iran ait l'arme nucléaire. C'est vrai, mais il a aussi toujours dit qu'il était contre les interventions militaires au Moyen-Orient, le fait de jouer le gendarme de la planète, bon, c'est exactement ce qu'il a fait. Donc, on n'est pas à une contradiction près et on n'est pas à une contorsion près, mais encore une fois, sa base largement le suit. Donc, est-ce qu'il y avait une division, une fracture très importante avant les frappes? Oui. Est-ce qu'il y en a une très importante depuis les frappes? Non. En même temps, au sein de son cabinet, il y a vraiment de la bisbille. Madame Gabbard, que lui a nommée pour diriger les services de renseignement, avait dit sous serment que selon elle et selon les services de renseignement américains, le régime iranien n'était pas prêt d'avoir une arme nucléaire. Elle a dit également qu'elle était farouchement contre le fait d'intervenir. Bon, là, présentement, on met un beau visage là-dessus. On dit tout le monde s'entend bien, mais la réalité, c'est que si Trump continue à se mettre le bras dans l'engrenage, si on commence à avoir vraiment une incursion, là, qui n'est pas deux, trois frappes à gauche puis à droite, là, mais quelque chose vraiment qui s'éternise dans le temps, on n'est pas là pour l'instant. Mm-hmm. Mais si on se dirige là, ça va être difficile, je crois, à l'interne de garder ça comme étant harmonieux. Mais regardez ce que Trump a essayé de faire. C'est pas fou d'un point de vue stratégique. C'est de dire, dans le Parti républicain d'aujourd'hui, il y a encore cette vieille garde orthodoxe qu'on surnomme néoconservatrice. Là, je vous parlais de la doctrine Bush tantôt, c'est-à-dire on intervient, ça prend un gendarme de la planète, il faut que ça soit nous, on peut autoriser aucun autre gouvernement, aucun autre pays d'être un rival vraiment comparable à nous, donc il faut agir pour prévenir ça, etc., etc. Cette mouvance-là, elle est encore présente. Donc, Trump ne peut pas l'ignorer complètement. C'est pas pour rien qu'il a nommé un type comme Marco Rubio comme l'équivalent du ministre des Affaires étrangères, son secrétaire d'État. Ce type-là fait partie de cette école de pensée-là. Donc, se dit, ça me prend quand même des gens de cette vieille garde orthodoxe, Bush-Cheney, etc., interventionniste, néoconservatrice autour de moi. Mais en même temps, c'est vrai que la majeure partie de son électorat, certains gens dans son cabinet, comme M. Vance, comme Mme Gabbard, ne veulent pas cette espèce d'approche ultra-interventionniste, agressive, etc., etc. Donc, il essaye présentement, c'est là que je disais que c'est pas complètement fou stratégiquement, il essaie présentement de ménager la chèvre et le chou en disant, on frappe, donc vous voyez, je suis pas mou, je laisse pas l'Iran avoir l'arme nucléaire, mais en même temps, on frappe et on négocie, c'est la fin. Il s'est vraiment pressé après les frappes de dire, on retourne à la table de négociation, on a un cessez-le-feu, c'est la fin de l'histoire. Donc, présentement, il est politiquement, je ne dis pas au niveau de la gestion du conflit, mais politiquement, il est capable de maintenir une certaine harmonie au sein de son parti. Est-ce que ça peut durer éternellement? Je soumettrai que la réponse probable est non si on commence à avoir un réel conflit armé sur le long terme. Regardez ce qui s'est passé avec Bush. C'était pas la même chose parce qu'on n'avait pas une dynamique de queue de la personnalité qui était aussi forte. Mais il reste que cette guerre-là, où il y a eu un enlisement là, sur des années, ça a fini par complètement empoisonner et en fait anéantir sa présidence. Je vous soumettrais que ce serait très probable qu'on ait quelque chose au moins de semblable à ça pour Trump si on avait
si
un épisode.
Si le conflit perdure.
Mais encore une fois, on est loin d'être là pour l'instant. On est loin d'être là.
Parce qu'au départ,
le conflit, juste être clair là, au niveau du langage qu'on utilise, le conflit va perdurer. Je parle vraiment d'une guerre ouverte. Si on se lance là-dedans et ça finit pas, là, ça devient problématique. Mais c'est là, je disais, on est très, très loin de ça pour l'instant.
Parce que sur le coup, là, avec ces frappes-là, on disait, c'est une déclaration de guerre pratiquement. Ouais. Mais là, finalement, quelques jours, une semaine plus tard, est-ce qu'on est en situation de guerre en ce moment? Comment qu'on qualifierait ce conflit?
Ça dépend. Là aussi, à qui vous posez la question. En ce qui me concerne, c'est clair que c'est une guerre.
Okay.
C'est une guerre israélo-iranienne dans laquelle les États-Unis se sont lancés. Donc, est-ce que la première déclaration de guerre a été faite? En fait, elle n'a jamais été faite, on dira, mais concrètement, est-ce qu'elle a été faite par les Américains? Non, il y avait déjà cette guerre-là qui était ouverte entre les Iraniens et les Israéliens qui se lançaient des missiles d'un bord et de l'autre.
Puis eux, est-ce qu'il y a un instigateur plus que l'autre État de ce conflit-là?
Ben, On va fermer les caméras pour répondre à ça. Non, c'est que tu ne peux pas répondre à ça sans te mettre, parce que c'est rendu un enjeu qui est vraiment clivant, là, même ici, d'un côté de l'océan. C'est impossible de répondre à ça sans te mettre à dos de façon viscérale une partie importante de la population qui va avoir des décennies d'arguments de sortir, comme quoi c'est eux qui ont commencé. Parce que il y a la dynamique israélo-iranienne, mais on s'entend, de façon sous-jacente, il y a la dynamique israélo-palestinienne.
Puis israélo-monde arabe en général, en fait.
Exact. Mais israélo-palestinienne et israélo-arabe n'est pas synonyme, mais disons que c'est proche l'un de l'autre, on s'entend. C'est un débat sans fin et sans fond, à savoir qui a commencé. Tu sais, je ne vais pas partir sur une tangente, mais en même temps, je pense que le parallèle, même s'il n'est pas parfait, il est pertinent. M. Vance, le vice-président actuel, lorsqu'on lui a posé la question il y a quelques semaines, à savoir qu'est-ce qui se passe avec les négociations russo-ukrainiennes, ça avance-tu pas? Ce qu'il a dit dans un moment assez révélateur de candeur, et j'ai aucune difficulté à le croire, c'est-à-dire, ce qui est difficile, c'est qu'à chaque fois qu'on essaie de les asseoir un à la même table avec l'autre, les 30 premières minutes, c'est toujours la même chose. Chaque côté passe par des décennies d'histoire pour essayer de prouver que c'est l'autre qui est responsable du conflit. Quand vous avez quelque chose qui est aussi profond, aussi complexe que ça, c'est difficile que ça fasse autrement. Donc, qui est vraiment l'instigateur? Je ne peux pas vous regarder dans les yeux aujourd'hui dire c'est un ou l'autre.
Ma question, c'était plus qui a lancé le premier missile récemment.
C'est Israël. Ça, je veux dire, c'est indéniable. Il n'y a personne qui peut regarder la réalité et dire que c'est l'Iran. Maintenant, encore une fois, pour être nuancé, je ne suis pas en train de dire que les Israéliens n'avaient pas de cause, en avaient une. Je ne suis pas en train de dire que l'Iran n'a rien fait pour provoquer ça en premier lieu. Je suis en train de vous dire, lorsqu'on parle des dernières semaines, le premier pays qui a commencé à bombarder l'autre, c'est Israël qui a commencé à bombarder l'Iran. Et après coup, L'Iran a répliqué. Après coup, les États-Unis ont bombardé l'Iran. Là, on a une sorte de cessez-le-feu. Ça aussi, on peut presque le mettre en guillemets. Donc, est-ce qu'on est en guerre? Essentiellement, oui, on est en guerre. Est-ce que c'est une déclaration de guerre formelle? Non, une déclaration de guerre formelle du côté américain, encore une fois, ça doit passer par le Congrès. Donc, il n'y en a pas. Mais dans les faits, on est en guerre. Mais encore une fois, quelle forme ça va prendre? Pour combien de temps? En bon français, who knows? On ne le sait pas. Et c'est là que ça devient à la fois volatile et imprévisible, et plusieurs vous diraient dangereux, parce qu'à partir du moment où vous mettez le bras dans l'engrenage, même si vous avez un président qui n'est pas interventionniste, qui a une base électorale qui ne veut pas de guerre sans fin, en fait, qui veut mettre fin aux guerres sans fin, à partir du moment où, si, par exemple, on n'est pas là et les Iraniens n'ont pas, pour l'instant, réagi comme ça, loin de là, mais si, par exemple, on y va de frappe additionnelle, pour peu importe quelle raison, là, les Iraniens disent, ne serait-ce que pour notre propre public à la maison, notre propre population, on doit avoir l'air fort. Donc là, on ne va pas juste envoyer des espèces de missiles de façon sans dire stagé, c'était presque ça, là, sur une base au Qatar en disant « Hey, watch out, on va vous frapper. »
En disant « Enlevez votre monde. »
Enlevez votre monde pour être sûr qu'on ne fasse aucun mort. Là. Mais disons qu'on commence à vraiment contre-attaquer de façon importante. Même pas importante, mais juste qu'on commence à tuer du personnel américain. Ouais. Et que là, la pression politique monte de l'autre côté pour que là, on dise « Ben là, voyons, crime. »
Exactement.
On ne peut pas laisser ça. C'est là que ça devient potentiellement encore plus volatile, dangereux. On n'est pas là, mais l'histoire de l'humanité, oublie l'histoire des États-Unis, l'histoire de l'humanité est tellement truffée de conflits et de guerres où, au début, on disait de part et d'autre, ça ne durera pas longtemps. Non, ça ne peut pas durer longtemps. Peut-être que l'exemple le plus tragique et le plus frappant de ça, c'était la Première Guerre mondiale. On était à la fin 1914. La guerre a commencé automne, été, techniquement, là, août 2014, et été 1914, fin de l'été, on a vraiment, vraiment commencé les hostilités au début de l'automne. À la fin 1914, les Français et les Allemands se disaient tous les deux, ça ne peut pas durer. Il ne peut pas y avoir ce degré de souffrance et de folie humaine-là sur une longue échelle de temps, c'est impossible. Donc, on s'attend, de part et d'autre, à ce qu'au printemps, au plus tard, et probablement que ça ne se rendra même pas au printemps, au printemps 1915, ça va être réglé, cette affaire-là. Ce qui a mis fin à cette guerre-là, le facteur principal, vous savez, c'est quoi? On appelait ça la grippe espagnole. S'il n'y avait pas eu la grippe espagnole en 1918, qui a fait plus de morts, considérablement plus de morts que les soldats, que la guerre en tant que telle, on ne sait pas quand ça serait terminé. Évidemment, ça se serait terminé, je présume, tôt ou tard, là. Mais on était rendu en 1918 et c'était pas fini.
Ouais.
Fait que tout ça pour dire qu'à partir du moment où vous mettez le bras dans l'engrenage, qui sait quand, comment ça va finir?
Moi, j'imagine que tu vas pas t'aventurer là-dessus pour les raisons qu'on a mentionnées juste avant, là. Mais il me semble qu'il y a quelque chose... Il y a quelque chose que moi, je comprends pas dans la relation internationale avec Israël. Il y a quelque chose que je suis pas capable de saisir, puis je comprends qu'il y a une information qui me manque parce que je comprends pas la position de la communauté internationale auprès d'Israël.
La quoi?
La
communauté internationale, ça existe?
Ouais, ben
la
communauté occidentale. Ouais, non, la communauté occidentale.
Mais attention.
Ou la communauté de l'OTAN, mettons.
La nuance est quand même importante.
Oui, je comprends. Je comprends.
Je laisse continuer.
Ouais. Mais je comprends pas l'appui envers Israël et le refus de critiquer ou de punir, là, ou je sais pas quel mot j'aimerais utiliser, ou même inversement, non seulement le refus de critiquer, mais aussi les États-Unis qui, au final, sautent à la défense d'Israël, qui, eux, ont lancé les premières bombes la semaine passée. T'sais, puis j'entends ce que tu dis, c'est un conflit extrêmement complexe qui recule à des centaines d'années, là, tu sais, qui s'est développé avec qui a fait la première chose, puis une empilade de différents moments charnières qui ont mené où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Mais les faits d'aujourd'hui sont ce qu'ils sont, puis j'ai vraiment de la difficulté à comprendre la position internationale par rapport à Israël. Peut-être que tu peux
occidentale.
Ou non. Occidentale, excuse-moi. Que tu peux ou non m'éclairer sur ça,
okay.
Sur cette position-là.
Je vais le faire avec plaisir. Je vais essayer de le faire avec plaisir, okay, parce que c'est difficile. Avant, je vais quand même me permettre un autre petit commentaire,
ouais,
sur la Russie plus
calme. Ouais.
Quand on parle de communauté internationale, ça, jusqu'à un certain point, c'est controversé. Je ne le dis pas pour être controversé, parce qu'on voudrait croire en diplomatie que c'est une chose qui est presque uniforme, qui existe. C'est discutable.
Je comprends.
Dans la mesure où, si vous regardez justement le conflit russo-ukrainien, qu'est-ce qu'on a dit et répété, de notre côté, entre guillemets, notre côté du conflit, dans les premières semaines, les premiers mois de ce conflit-là? Le monde est uni contre la Russie.
Non.
L'Occident est uni contre la Russie. Si le monde était vraiment uni contre la Russie, les sanctions, qui ne fonctionnent pas depuis, ouais, 3 ans et demi, ouais, auraient fonctionné, ouais, beaucoup plus tôt. En fait, fonctionneraient probablement à point. C'est, mm-hmm, pas le cas. Fonctionnerait au moins d'un point de vue économique. Il y aurait un débat à savoir est-ce que ça le fait reculer de façon militaire, M. Poutine, mais au moins ça fonctionnerait, ouais, économiquement. Ça fonctionne pas vraiment, ouais, de façon économique, ouais, parce qu'encore une fois, la Russie a des pays qui soit sont des alliés, ouais, soit sont des copains, ou soit sont neutres présentement et jouent un petit peu des deux côtés. On peut penser notamment, évidemment, à l'Inde. Bon. Fait qu'il faut faire attention.
Les sanctions sur la Russie, ce que ça a donné, c'est des yachts qui ont été saisis, ah, puis qui sont... Luc Poirier va acheter. Ouais. Là,
ouais. Ils sont peut-être pas assez chers pour Luc, ouais, Poirier. C'était trop cheap pour lui. Non, mais ça, c'est extraordinaire ce que ça a donné. Ouais. Vous savez ce que ça a donné? La saisie de yachts d'oligarques. Ça a donné à plein de gens en Occident, dans des positions d'autorité et d'influence, l'occasion de se vanter. De dire, regardez comment c'est extraordinaire ce qu'on est en train de faire. Ouais. Regardez comment... Dans les faits, faut-tu pas comprendre le régime de Vladimir Poutine pour penser que parce que vous allez commencer à saisir des yachts des oligarques, ce régime-là va reculer. Je dis, c'est incroyable le, ouais, niveau d'incompréhension. Dans tous les cas, je le mentionne, le parallèle, encore une fois, parce qu'il me semble pertinent pour ce qui est de ce qui se passe avec Israël. Ouais. Israël est appuyé par une partie non négligeable de la communauté internationale, mais est également détestée par une autre partie très considérable de cette même communauté-là. Même chose pour les États-Unis. Bon, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, pourquoi est-ce que les États-Unis sont des alliés indéfectibles depuis maintenant, quoi, 80 ans, grosso modo, depuis essentiellement la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la fin des années 40? C'est là que ça devient complexe. Premièrement, il y a une question à poser, à savoir, est-ce que vous pouvez trouver, encore une fois, c'est le vous impersonnel, là, c'est pour vous, messieurs, là, est-ce que qui que ce soit peut trouver un seul autre exemple dans l'histoire du système international dans lequel un État qui est aussi petit que ça, à la fois en termes de population et de territoire, on parle en date d'aujourd'hui de, ouais, près de 10 millions de personnes, ouais, grosso modo, sauf erreur, un territoire qui est quoi, de la grosseur peut-être du New Jersey, peut-être même plus petit, grosso modo, qui est capable de mener essentiellement, je ne vais pas trop simplifier, mais par le bout du nez, le plus gros acteur de ce même, ouais, système-là, sur des décennies. C'est incroyable. Donc, la question devient encore plus pertinente, à savoir, ouais, comment est-ce possible?
Qu'est-ce qui se passe?
Surtout dans un contexte où, de façon froidement stratégique, purement rationnelle, il y a des sacrés bons arguments du côté américain pour dire ces appuis-là, cet appui-là indéfectible, ces appuis-là continuent à Israël, nous font plus de mal, ouais, que de bien. Donc, il y a plusieurs choses. La première composante, c'est souvent une qu'on a beaucoup de misère à comprendre. Elle est, en fait, de nature religieuse. L'État hébreu, c'est pas... Le peuple hébreu, c'est pas un peuple, c'est pas un État comme les autres pour les évangéliques chrétiens. Pour un évangélique chrétien, c'est le peuple choisi, c'est la terre choisie. C'est là où Dieu va revenir. Bon, encore une fois, je simplifie très grossièrement et j'ai aucune espèce de prétention d'être un expert en religion. Ça, c'est assez élémentaire. Les évangéliques chrétiens aux États-Unis, c'est pas une petite partie de la population. C'est à peu près le quart de la population américaine. Dans des États qui, électoralement, ont été dans le passé névralgiques, c'est encore plus prononcé que ça. Donc, comme politicien...
25% du
monde. Quand vous avez besoin de 50 pour gagner...
C'est une bonne partie.
C'est une sacrée bonne partie.
Puis c'est aussi une bonne partie à te mettre à dos.
Exact. Ouais. Surtout que c'est... Encore une fois, j'arrête pas de répéter, je simplifie, mais on a du temps, mais on n'en a pas tant que ça, ouais, pour condenser des décennies d'histoire. Là. C'est souvent, dans les 30-40 dernières années, une partie de la population d'électorat qui est extrêmement bien organisée. Donc, c'est une chose d'avoir les nombres, d'avoir le nombre, d'avoir le volume. C'est une autre chose aussi, dans certains cas, même plus payante électoralement, d'être organisée. Là, tu as les deux avec ce bloc qui est absolument crucial, ça. Donc, crucial. Là. Donc, il y a ça. Il y a le fait que, dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on s'est dit, À l'époque, c'était l'administration de M. Truman. On va avoir un allié dans la région. Et on va se... C'est plus que se lier. On va s'attacher. En fait, s'attacher, c'est lier. C'est se lier. J'essaie de trouver un mot encore plus intime que ça.
Fusionner.
Se fusionner. C'est presque ça. Fusionner est peut-être trop fort, mais l'a rendu dans un débat sémantique. Ouais. Là, quelque part, entre lier puis fusionner. Non, mais c'est vrai, parce que c'est plus qu'une alliance.
Ouais.
Les États-Unis sont alliés avec le Canada, sont alliés avec la Grande-Bretagne, sont alliés avec l'Allemagne. Bon, ils n'ont pas le niveau de collaboration militaire au niveau des services de renseignement qu'ils ont depuis 80 ans avec Israël. Donc, l'idée, c'est de se dire, dans une région extrêmement stratégique, c'est vrai que d'un point de vue, encore une fois, énergétique, on va toujours avoir des yeux, des mains, des pieds sur le terrain. Je ne dis pas que c'est un bon calcul, encore une fois, stratégiquement. Je vous dis que c'est celui qui est fait. Et il y a aussi un autre éléphant dans la pièce. Je sais que c'est controversé, encore une fois, je ne le dis pas pour faire dans la polémie. Je ne veux pas être un polémiste, je ne veux pas faire dans la polémie. Dans les gens qui écoutent ça vont dire le type a vraiment un problème de langage. Il n'est pas capable, rendu à l'âge qui est, 23 ans.
Je
ne
dirais pas faire dans la polémique, par exemple.
Exact, non, c'est ça, de différencier ses adjectifs de ses noms. OK, je ne veux pas faire donc dans la polémie, mais la simple réalité, c'est qu'on parlait de blocs électoraux bien organisés. Les Israéliens, les pro-israéliens, les sionistes, les juifs, et ce ne sont pas des synonymes que je viens d'utiliser, mais disons que ce sont des bases qui sont très communicants, on s'entend, sont extraordinairement bien mobilisés et organisés autour des cercles de pouvoir aux États-Unis, là aussi, depuis bien des générations. Ah, mais là, c'est là que ça devient controversé, mais... Mais je ne veux pas dire que tu as tort. Qu'on se fait... Et ça, c'est en passant, il y a quelque chose dans le débat présentement qui est hyper toxique. Je me permets le petit commentaire, là. De toujours vouloir réduire ça ou trop souvent réduire ça à, encore une fois, blanc ou noir. Fait que t'émets un propos critique face à Israël, t'es antisémite.
Ouais.
T'émets un propos qui essaie de voir la perspective de Vladimir Poutine, t'es un apologiste du Kremlin.
Mm-hmm.
Non. Le monde n'est pas noir et blanc. De un, essayer de comprendre l'autre, essayer des fois d'être critique de part et d'autre, ça ne veut pas dire que tu es vendu d'un côté ou de l'autre. C'est incroyable. Des gens qui, depuis les dernières semaines, avec ce débat-là au niveau du Moyen-Orient, se font accuser d'être des agents du Qatar, d'être payés par le Qatar. Je comprends qu'il y a eu l'épisode de l'avion, là, mais c'est absurde. OK? Donc, en ce qui me concerne, j'en suis pas un.
Tu fais juste mettre la parenthèse. Je comprends qu'il y a eu l'épisode de l'avion.
Oui, mais de l'avion, c'est important pour le président des États-Unis. C'est pas rien, OK? C'est loin d'être rien. Massif. Mais pour moi, c'est massif. Ouais, pour moi, c'est rien.
Je
vous confirme, j'ai pas un avion du Qatar qui m'attend à la maison. J'aimerais ça. Mm-hmm. C'est pas une invitation, ça, de s'en passer un pot de vin que je suis en train de faire. C'est juste vous dire que on peut être analyste, avoir des propos critiques à l'endroit d'Israël sans être antisémite.
Ouais.
Et la raison pour laquelle je mentionne ça, c'est que très souvent, lorsqu'on parle du fait que ce lobby-là est bien financé, on se fait dire, bien ça, c'est une ligne classique antisémite de dire que les Juifs ont de l'argent. Fait que ça se veut pas antisémite. Non, je veux simplement dire, objectivement, ils sont bien financés, organisés et mobilisés.
Mm-hmm. J'entendais Bernie Sanders dire exactement ça, tu sais, qui disait pourquoi il y a autant peu de démocrates qui critiquent Israël.
Pour l'instant. Ça, c'est en train de changer.
Pour l'instant, possiblement, mais il disait que c'est une question de financement. Là. C'est une question de...
C'est
Bernie.
Non, c'est Bernie Sanders aussi. Ouais. Et ça, c'est en passant.
Qui est juif, d'ailleurs.
Effectivement. Ça, c'est intéressant de voir aux États-Unis comment c'est en train de changer le Parti démocrate.
Ouais.
Parce que...
Je voulais qu'on en parle, d'ailleurs. C'est une bonne affaire.
Qu'on le fasse maintenant?
Ben, on y va tranquillement. Là, okay. On continue. On va voir où ça nous amène.
Ben, tranquillement, on est dedans. Oh, okay, recule-moi maintenant. Ah, non,
c'est bon. Allons-y. Ouais.
Jusqu'à relativement récemment, il n'y avait pas vraiment de débat important aux États-Unis sur la question israélo-palestinienne. Il y avait des débats sur le rôle des États-Unis au Moyen-Orient, bon. Mais un débat à savoir, est-ce que les Israéliens devraient être davantage nos alliés ou non? Est-ce que les États-Unis devraient se ranger davantage dans un camp que l'autre? Il y avait très, très peu de débats, tout au moins au niveau des sacs du pouvoir. Démocrates, républicains, c'était une sorte d'entente tacite sur des générations. Depuis, puis on ne peut pas établir une date de cassure près, mais je vous dirais à peu près les 10 dernières années. Il y a eu un mouvement de plus en plus important au sein du Parti démocrate. Ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit un petit peu d'une autre façon du côté républicain avec des gens qui sont anti-intervention militaire qui disent on doit se décoller d'Israël, mais ça reste quand même très, très minoritaire au sein du Parti républicain. Au sein du Parti démocrate, c'est en train de devenir, on verra là, sur le plus long terme, mais potentiellement majoritaire. La position qui est de dire, pas nécessairement on va être farouchement pro-palestinien, mais on va se décoller un peu d'Israël. Et là, ça donne des dynamiques comme celle qu'on a eue, qui est absolument fascinante, à New York, où on a une élection pour la mairie, mm-hmm. et on a un musulman d'une trentaine d'années, donc extrêmement âgé pour vous, mais peu d'un point de vue électoral, 33 ans sauf erreur, chiite, soit ça passant à la branche de l'islam principale en Iran, qui fait une campagne, c'est vrai, pas juste sur la dynamique israélo-palestinienne, israélo-arabe, on a parlé du coût de la vie, tout ça, bon, mm-hmm. c'est vrai, mais en même temps, c'était un enjeu qui était aussi central. Ouais. Et il a pris une position qui, lui, était farouchement pro-palestinienne. Et ce type-là est peut-être, on est au mois de juin, juillet, il faut faire attention, là, mais il vient quand même d'émerger victorieux d'une primaire démocrate dans une ville qui, depuis des générations, a une population oui. juive qui est très importante.
Mais donc, qui est une ville qui est extrêmement démocrate.
C'est extrêmement démocrate.
Difficile de penser que ce gars-là ne deviendrait pas maire de New York.
Ça va prendre quelque chose d'important de l'autre côté comme effort pour se coaliser contre lui, parce qu'il est extrêmement controversé. Donc oui, il a l'avantage qui est très considérable d'être un démocrate, d'être maintenant le candidat de facto, en fait, de facto, le candidat ouais. officiel du Parti démocrate pour une élection générale dans laquelle, quoi, c'est 60, plus de 70 % de l'électorat est démocrate, vote démocrate, donc c'est sûr que c'est un avantage extraordinaire. La question, c'est de savoir, est-il controversé au point où il y a tellement de gens, et dans certains cas, et je vais être clair, c'est pas juste des intérêts pro-israéliens, mais ça en fait partie, sont prêts à mettre tellement d'argent, tellement d'efforts pour l'arrêter qu'on se coalise derrière une alternative, que ce soit M. Cuomo qui a perdu la primaire, qui pourrait revenir dans l'élection générale, M. Adams, de manière certaine, peu importe. Quand ça devient un débat peut-être plus granulaire là, pour les gens qui nous écoutent. Mm-hmm. Le point, c'est simplement de mentionner qu'on a dans la plus importante ville du pays un schisme spectaculaire qui est en train d'éclater au grand jour au sein du Parti démocrate, à savoir mm-hmm. sur la question israélo-palestinienne, comment on se positionne. Mm-hmm. Puis, tu sais, c'est une chose d'étouffer ce débat-là tant aussi longtemps que tu n'as pas un candidat qui remporte l'investiture de ton parti pour une élection majeure.
Ouais. Mm-hmm.
Là, ça s'étouffe comme pu.
Ouais.
Fait que la suite des choses, là aussi, est extrêmement imprévisible.
Mais ça montre aux États-Unis, où en fait, que là, ce type de gauche-là, à la Bernie Sanders, à la AOC, commence à prendre un petit peu plus, à prendre du galon. Puis, ça, justement, possiblement en réponse à... au style de Donald Trump oui. qui est plus extrême, là, si je peux me permettre le mot, ben on a cette réponse-là de la gauche aussi. Là.
Chaque action a une réaction. Mm-hmm. Vous avez fait votre cours de chimie? C'est essentiel. Chimie et physique, mais en physique, à un certain point, tu as ça aussi comme dynamique. Est-ce que c'est de dire que tout ça, c'est en réaction à Trump? Non, dans la mesure où on avait déjà un mouvement populiste de gauche des années avant que Trump lance sa première campagne. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'avoir entendu parler de Occupy Wall Street. Ouais. Occupons Wall Street, bon, ça avait fait plein de petits. Là. Il y avait eu Occupons Montréal avec des tentes au centre-ville dans le Vieux-Montréal. Ça n'a pas duré si longtemps que ça, mm-hmm. mais ça avait été un mouvement relativement important qui n'avait pas changé grand-chose électoralement aux États-Unis, mais c'était quand même un signe comme quoi il y avait de la grogne populaire et populiste à gauche, en guillemets, de l'échiquier politique américain. On avance 4, 5, 6 ans plus tard, on a la première campagne présidentielle de Bernie Sanders. Je pense qu'il faut appeler un chat aussi là-dessus. C'est pas une théorie du complot, c'est un fait en ce qui me concerne de réaliser que si l'establishment du Parti démocrate n'avait pas, sans dire pipé les dés, n'avait pas tout fait pour bloquer la voie à Bernie Sanders, il aurait eu, évidemment, on peut pas réinventer l'histoire et être certain qu'il aurait gagné l'investiture.
Ouais.
On peut être certain qu'il aurait eu de très bonnes chances de gagner l'investiture présidentielle du Parti démocrate à la fois en 16 et en 20. Parce qu'en 16, en 2016, ce qui s'est passé quand il était l'adversaire d'Hillary Clinton, c'est que là, on a vraiment pipé les dés. Tu sais, quand on parle de triche, là, Donald Trump a menti à répétition comme quoi on lui avait volé, l'élection de 2020 avait été truquée. Non, elle n'a pas été truquée, il l'a perdu. De façon serrée au collège électoral, mais il l'a perdu. Bernie Sanders aurait pu lui vraiment dire, sans dire qu'on a pas truqué les résultats électoraux, mais on a pipé les dés de cette course-là. Dans la
de quelle
mesure,
façon, excuse?
De nombreuses façons. Je peux vous donner deux exemples. Ouais. Et ça, c'est pas encore une fois une théorie du complot. Ça a été documenté. Ouais. C'est sorti après coup, en fait, pendant même la campagne. Puis c'était évident, soit en passant, alors qu'on vivait ça, avant même que ce soit documenté, on pouvait aller entre les lignes. Certains des débats entre lui et Hillary Clinton qui avaient été organisés pour qu'il y ait les moins grosses cotes d'écoute possibles à des heures où moins de gens allaient les regarder parce qu'on voulait rendre ça comme étant moins compétitif. Au moins une instance dans laquelle une très haute responsable démocrate qui avait eu accès aux questions des débats, du débat, je vais être prudent, avait remis clandestinement ces questions-là au camp de Mme Clinton. Je disais, encore une fois, il faut appeler un chat un chat. Je disais, les dés avaient été pipés contre Bernie Sanders. Bon.
Puis il y avait eu un gros spin aussi là, à propos de... Il avait parlé de... Il avait parlé de Cuba là, à cette...
Ça, c'est en 2020.
En 2020.
Oui, ça, je vais y aller dans un instant. Puis juste être sûr, parce que ça fait quand même quelques années, dans le cas des questions, c'était peut-être pour une entrevue, mais dans tous les cas, je dis clairement, c'était pas en bon français entièrement legit.
Ouais.
Bon, ça, c'est en 16. En 20, Bernie Sanders, dépendant comment on compte ça, gagne l'Iowa, gagne le New Hampshire, qui sont les deux premiers États à voter dans le cadre des primaires démocrates, gagne le Nevada. Et là, il est 3-3. Puis historiquement, t'arrêtes pas un candidat.
Le momentum est là.
Il est tout là. Bon. Et ce qui s'est passé, là, c'est pas que c'est pas en guillemets legit, c'est pas de la fraude. Je vais faire attention à comment je le présente. Mais clairement, pour n'importe qui est doté d'un quotient intellectuel minimal, qui est capable de lire entre les lignes, c'est clair qu'il y a eu un effort de collusion entre les candidats de l'establishment du parti qui ont presque tous quitté la course en même temps et du jour au lendemain se sont tous ralliés à Joe Biden.
Ouais.
Et là, Joe Biden, qui était nulle part, qui s'était fait terrasser dans les deux premiers États qui avaient voté, finit par prendre le dessus et la primaire est finie très rapidement et il l'emporte.
En quelques semaines. Là,
en quelques semaines à peine. Puis en fait, la vérité, c'est que la primaire s'est jouée, l'élection primaire, la course, je devrais dire, pour l'investiture démocrate, s'est jouée en quelques jours.
Ouais.
À ce moment-là, à partir du moment où les Pete Buttigieg, les Beto O'Rourke, les Amy Klobuchar se sont tous ralliés, ont appuyé Biden. Je dis, vous connaissez l'expression « the writing on the wall », c'était écrit sur le mur. C'était clair que Biden allait gagner. Bon, le point étant simplement ceci. L'establishment démocrate a été capable, non pas à une, mais à deux reprises, d'étouffer cette vague populiste de mécontentement de gauche-là. Et a été en fait encore plus capable de ça sur le plus long terme, de l'étouffer en se l'amadouant pendant la présidence Biden, en donnant un accès important à cette branche-là du Parti démocrate, à la Maison-Blanche de M. Biden, en lui faisant des concessions importantes au niveau des politiques publiques, etc. Je suis pas en train de vous dire que Biden a gouverné comme Bernie Sanders aurait gouverné s'il avait été élu. Je suis simplement en train de vous dire qu'on a fait des concessions pour garder le couvercle sur la marmite. Et là, ça a été presque pas du tout couvert par les médias ici, mais c'était super intéressant de voir ce qui se passait depuis les dernières semaines au sein du Parti démocrate. Donc là, je parle depuis la victoire et la sermentation de Trump. Il y avait un type qui s'appelle David Hogg, qui est un jeune dans la vingtaine, très militant, très à gauche, dans la faction de la faction Bernie Sanders, qui avait réussi à gagner le poste de numéro 2 du Parti démocrate. C'est pas un élu là, populaire, mais c'est un élu au sein du parti. Vous comprenez ce que je veux dire au niveau de la structure du Parti démocrate? C'est essentiellement l'équivalent du vice-président du Parti démocrate. Et il avait déjà télégraphié sa volonté.
Le numéro un à ce moment-là, c'est qui?
Un type qui s'appelle Ken Martin. Maintenant, si vous dites qui est Ken Martin, bienvenue dans le club dans lequel 99,9% de la population américaine est. Personne ne sait c'est qui, mais c'est lui le président du Parti démocrate présentement. Donc, ce type-là, David Hogg, le numéro 2, commençait à dire de façon très claire, on va lancer des candidatures de gens comme nous, lisant de parenthèse Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, etc., dans des primaires démocrates en 2025, en 2026, pour sortir les gens qu'on trouve comme étant trop modérés, trop sympathiques à la cause de Trump, trop... Bon, etc. Pas assez de notre sauce. Et ce type-là s'est fait éjecter par les hautes instances du parti qui ont dit « Faut tuer ça dans l'œuf. On ne peut pas avoir un mouvement d'insurrection, entre guillemets, électorale au sein de notre propre parti qui est mené de l'interne. » Donc, on l'a débarqué. On a trouvé une espèce de raison, honnêtement, bidon pour le débarquer. On l'a débarqué. Et là, on arrive quelques jours, quelques semaines plus tard, et on a cette course-là à la mairie de New York. L'illustration étant simplement qu'on ne peut pas étouffer cette colère-là éternellement. Les républicains n'ont pas été capables de l'étouffer avec Trump. Les démocrates ont été capables de l'étouffer pendant beaucoup plus longtemps que ça. La question, c'est de savoir à quel point cette situation-là à New York fait des petits dans le reste du pays. On ne le sait pas pour l'instant, mais la question se pose. Et ce qui est très possible, ça va répondre de façon encore plus directe à ta question, c'est de savoir, c'est de se demander... Est-ce qu'on pourrait avoir dans un an, dans trois ans, en 26, en 28 pour les élections mi-mandat, qui sont des élections nationales, en 28 pour les élections présidentielles, deux partis populistes, chacun à leur façon, populiste, et je simplifie, là, mais de droite, avec peu importe quel successeur de Trump, on pourrait avoir un J.D. Vance ou autre.
Troisième mandat.
Bon, ça, c'est un autre débat. Si vous voulez aller là-dessus aussi, on ira. D'autre côté, l'équivalent, je présume que ce ne serait pas Bernie Sanders, là, en même temps. Là,
qui on peut penser qui pourrait être le prochain?
Mais on ne peut pas exclure Bernie Sanders parce que rendu à quoi, 85-86 ans, il aurait l'âge moyen pour être président des États-Unis présentement. Là, on va dire qu'il tangiste. Non, mais c'est une blague. Là, c'est juste dire c'est pas impossible qu'il revienne, mais on s'entend qu'il ne sera pas le choix nécessairement à briser tout le monde, ne serait-ce qu'en en raison de son âge. Donc, ouais. quelqu'un comme ça, maintenant, la question, c'est de savoir qui ça pourrait être. C'est dans 3 ans. Mm-hmm. Si on replonge 20 ans en arrière, on est à l'été 2005, mm-hmm. et je vous dis, dans 3 ans et demi, la prochaine élection présidentielle qu'on va avoir, l'homme qui va être élu président des États-Unis s'appelle Barack Obama. Je pense que vous auriez eu une réaction semblable à quand je vous ai dit Ken Martin. C'est-à-dire, mm-hmm. c'est qui ça? Fait que, mm-hmm. il peut y avoir quelqu'un qui émerge, qui est connu de pas grand monde pour l'instant. Fait que, la liste, théoriquement, présentement, elle est presque infinie.
Quelqu'un de l'extérieur.
Quelqu'un de l'extérieur, comme ça peut être quelqu'un de l'intérieur. Ça peut être un sénateur, ça peut être un gouverneur, ça peut être un non-politicien. On le sait pas. C'est beaucoup trop tôt. Ce que je peux vous dire, par contre, qui est une certitude, c'est que les démocrates vont avoir des candidatures. Ça veut dire qu'ils vont toutes être fortes, mais ils vont avoir des candidatures qui vont être plus fortes que celles qu'ils ont eues lors de la campagne présidentielle avec M. Biden et Mme Harris, qui étaient tous les deux, pour des raisons différentes, des candidats qui étaient faibles. Mm-hmm. Là, on va avoir des candidats qui vont être plus forts. La question, c'est de savoir du côté républicain à quoi ça va ressembler. Est-ce que Trump va essayer de revenir? Ouais. S'il ne revient pas, qui va être son héritier? L'héritier naturel du trône, si on veut, c'est M. Vance, évidemment, le vice-président. En même temps, il y en a d'autres qui s'activent en coulisses, des gens comme M. Rubio qui ont des ambitions présidentielles depuis 15 ans, peut-être même plus. On verra. C'est complètement ouvert. Mm-hmm. Puis, t'sais, on parlait des différences entre le système canadien et le système américain tantôt. Le système canadien, la prochaine élection, on ne sait même pas c'est quand.
Oui, c'est ça.
C'est déjà, soit dit en passant, quelle belle illustration, encore une fois, du pouvoir ultra-centralisé. Le scrutin est déterminé par la personne qui est au pouvoir. Je veux dire, c'est incroyable. Quand, on prend ça comme si c'était normal. Ouais, c'est normal au Canada. C'est pas normal selon certaines normes démocratiques assez élémentaires, on s'entend. Dans tous les cas, aux États-Unis, on sait toujours c'est quand la prochaine élection et on spécule toujours à savoir qui va être le candidat qui va gagner.
C'est quand l'investiture démocrate? C'est quand le... C'est...
Les primaires, normalement, les dates ne sont pas confirmées, mais ça devrait, en principe, commencer fin décembre, janvier, février 27, 28. Donc, décembre 2027, en principe, ça ne peut pas vraiment être avant ça. Janvier, février 2028, en principe, ça ne peut pas être vraiment après ça. Même chose, on présume, du côté républicain. Mais tu sais, les dates, on ne les a pas. On est à l'été 2025.
Mm-hmm. Puis est-ce que tu crois que Donald Trump a créé un précédent de personnalité publique?
Dans quel sens?
Que les démocrates pourraient suivre.
OK, tu veux dire quelqu'un qui n'était pas un politicien, non seulement qui n'était pas un politicien, mais qui était une personnalité publique, une célébrité.
Ouais, tu sais, j'entends parler de l'ancien propriétaire des Mavericks de Dallas. Là.
Mark Cuban.
Mark Cuban, tu sais, j'entends parler de lui comme disant que là, il a vendu ses parts des Mavericks dans un move que personne comprenait vraiment pour se libérer du temps, puis un autre milliardaire, un autre homme d'affaires qui arriverait, qui a des idées beaucoup plus, très de gauche, là, mm-hmm. tu sais. Ça se peut-tu, ça, que Donald Trump ait ouvert cette boîte de Pandore-là, que là, maintenant, c'est un peu une course à la personnalité, puis...
Mais c'est pas un nouveau phénomène, dans le sens que Ronald Reagan était...
Un acteur.
Vladimir Zelensky aussi, je veux dire, c'est quand même un phénomène qu'on a déjà observé.
Il y a des précédents. En même temps, est-ce qu'il y avait vraiment un précédent pour Trump? Non, dans la mesure où Reagan avait quand même été élu 2 fois gouverneur de la Californie. Trump est la seule personne de l'histoire des États-Unis à n'avoir jamais occupé un poste public avant d'être élu à la présidence. Jamais servi dans l'armée, jamais été fonctionnaire, jamais été élu à quoi que ce soit. Première campagne de sa vie, sa présidence américaine, et soit en passant à l'époque, c'est le président le plus âgé à être élu, il a 70 ans. Grosso modo, 69-70, c'est incroyable comme histoire. Fait que des précédents, est-ce qu'il y en avait? Pas tout à fait. Reagan, oui, mais disons que c'est imparfait comme parallèle. Est-ce que ça a ouvert une boîte de Pandore ou ça crée un précédent qui pourrait être suivi? Peut-être. Sauf qu'en même temps, on a souvent, tu sais, on parlait beaucoup de guerre, d'armée tantôt. Il y a l'expression qui veut, selon laquelle on a des généraux qui veulent toujours mener la dernière guerre. Autrement dit, essayer d'imiter le modèle qui vient de fonctionner. Mais souvent, un modèle qui fonctionne en politique, en fait, plus souvent qu'autrement, fait son temps. Puis tôt ou tard, on veut une alternative, on veut quelque chose qui est différent. Puis ça, c'est pas profond comme analyse politique, là, mais quand on regarde juste depuis le début du siècle actuel, Clinton laisse sa place à Bush. Clinton, qui était vu comme un politicien très centriste, très, très collé sur les sondages, faisait ce que la population majoritairement voulait. Dans les années 90, je pense que c'était en 96, au milieu de sa présidence, lui et son équipe avaient même sondé à savoir où est-ce que la population aimerait qu'il prenne ses vacances.
Ah ouais. Hein?
Et c'est là qu'il était allé en vacances avec sa femme. Sauf erreur, c'était au Wyoming, qui était une excellente destination en ce qui me concerne. Je vous dis, petite parenthèse, que je pourrais jamais mentionner à la télévision parce que j'aurais pas le temps, on dirait arrête de partir sur une tangente. Le plus bel État américain non continue, c'est-à-dire qui n'est pas l'Alaska ou Hawaï, qui sont les deux plus beaux en ce qui me concerne, c'est le Wyoming. C'est très, très, très peu connu. C'est extrêmement peu peuplé. C'est moins de millions de personnes.
Ah ouais, hein?
Mais justement, ils ont un territoire extraordinaire à eux. C'est-à-dire, les parcs nationaux. Grand Teton, Yellowstone, c'est d'une beauté absolument stupéfiante. Et quand vous allez à Jackson, qui est l'une des... En fait, d'un point de vue culturel, politique, c'est probablement la ville la plus importante de l'État. C'est dans le... sauf erreur, l'ouest. C'est dans l'ouest du Wyoming. Ce qui est incroyable, c'est de voir les écarts de richesse. Et il manque de gens, souvent, pour travailler dans les restos, dans les bars, dans les hôtels, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont extraordinairement fortunés, qui veulent passer du temps là. Ils n'ont pas une assez grosse base de population qui va vouloir faire ces emplois-là. Ouais. Bref, dans tous les cas. Clinton, donc, qui était quelqu'un qui était vraiment collé sur les sondages, vu comme étant modéré, bon, assez intellectuel aussi, succédé par Bush, George W. Bush, qui se présente comme étant quelqu'un qui a des convictions, cowboy, anti-intellectuel, etc. Succédé par qui? Barack Obama. Je veux dire, l'ultime intellectuel, prof d'université, très posé, bon, etc. Suivi par Trump, qui, je veux dire, pour à peu près toutes les raisons évidentes du monde, est presque la création, le composite opposé de Barack Obama. Bon, tout ça pour vous dire que c'est pas parce que Trump a fonctionné comme modèle du côté républicain qu'on va avoir l'équivalent du côté démocrate qui va fonctionner au niveau de personnalité publique, peut-être pas. L'autre chose aussi, c'est que, et ça, il y a beaucoup de précédents pour ça, des gens qui sont des personnalités publiques qui flirtent avec une présidence puis qui reculent. Tu sais, on parle de M. Cuban, on pourrait parler du fondateur de Starbucks, pas le fondateur, l'ancien président, je veux dire, Howard Schultz, de mémoire, qui, il y a quelques années, a tenté une espèce de campagne présidentielle complètement broche à foin, installé nulle part et circulé. Donc, il a reculé. Il y a des gens comme Will Smith, comme Oprah, qui ont flirté avec ça. Kanye West, il l'a fait. Il l'a fait.
Ouais.
Pas de façon sérieuse, nécessairement. Mm-hmm. Mark Zuckerberg. Voici des noms qu'on a entendus. Au final, presque tous ces gens-là finissent par reculer. Et les quelques rares qui sautent vraiment dans l'arène, par du temps, ça ne fonctionne pas. Trump, là aussi, est une exception énorme. Regardez Michael Bloomberg. Le maire de New York, l'ancien maire de New York, saute dans les primaires démocrates en 2020, justement pour essayer d'arrêter Bernie Sanders, soit dit en passant, parce qu'on jugeait à l'époque que Biden n'était pas assez fort pour l'arrêter. Donc, Bloomberg se dit, avec tout mon argent, tout l'appui de l'establishment, c'est moi qui vais freiner Bernie Sanders. Bloomberg a été épouvantable. Il a été épouvantable comme candidat. Il a mené jusqu'à M. Biden en juin 2024, avec le débat, évidemment, c'est qui va marquer les annales, marquer l'histoire américaine pour les pires raisons inimaginables. Jusqu'à ce moment-là, il avait, en ce qui me concerne, les débats présidentiels, je les ai tous vus. OK, c'est ma job. Je m'en vante pas, là, c'est juste ma job. Depuis le premier débat Kennedy-Nixon, toutes les primaires présidentielles, démocrates, républicaines, toutes les élections générales, les débats, je les ai tous vus. J'ai jamais vu un candidat débattre aussi mal que Michael Bloomberg l'avait fait.
Ah ouais?
OK? Et le type était une personnalité jusqu'à un certain point public. Tout au moins, il était extrêmement riche. Donc, tu sais, fait que c'est là que je dis...
Jusqu'au débat de Biden.
Jusqu'au
débat... Tu dirais que ça, c'est le pire débat.
Il y a vraiment
débat...
une question.
Non, c'était horrible. C'était
pour quiconque...
une des pires choses que j'ai regardées toute ma vie.
Une pire performance de tout type de performance.
Tout type de performance.
En fait, il y a eu au moins un moment...
Axel Rose, sur la tournée actuelle, performe mieux que Joe Biden a performé.
Il y a quand même eu un moment... extraordinaire, de par son ridicule consommé. Vers la fin du débat chez vous, je ne sais pas si vous vous rappelez de ça.
Vous n'êtes pas rendu jusque-là.
Vous êtes pas rendu, mais vous avez manqué le meilleur bout. Ah. Le meilleur moment de la soirée où les deux commencent à s'ostiner sur le golf.
Ah oui, ouais, ben oui.
C'était assez grandiose. Ouais. Tu sais, tu atteins un stade des fois dans la vie où la tragédie devient tellement grande que ça devient une comédie.
Ouais.
Où tu sais, tu peux juste rire, en même temps, tu es mêlé à l'intérieur parce que c'est vraiment triste humainement ce que tu vois sur scène, mais ça tombe dans l'absurde. C'était ça. Ah. Donc, j'allais
la phrase
dire,
qui dit rien, qui marmonne, oh, we be Medicare.
Ouais. Là, je ris, mais c'est pas drôle. C'est drôle, puis c'est pas drôle.
Rien à faire
de
ça.
Trump a répondu, je comprends pas ce qu'il vient de dire, puis je pense pas qu'il comprend ce qu'il vient de dire lui-même. Quand tu dis, et Trump, ça dit en passant, a ses faiblesses énormes comme candidat, a aussi des fois. Encore une fois, il n'aurait pas gagné en sortant comme ça. Bon, s'il n'y avait aucun instinct politique, très, très aiguisé souvent. Dans ce débat-là, autant il a dit des énormités, des exagérations, des mensonges à l'appel, autant il a été très judicieux de battre en retrait et de ne pas être le Trump super tempté.
Ouais.
Et de laisser Biden,
de laisser Biden perdre le débat.
Dégracié, essentiellement. Ouais. Ça,
ça? Parce qu'il aurait pu avoir l'air, il aurait pu avoir l'air du bully qui est méchant envers un vieillard. Là,
exact.
Ça n'aurait pas été nécessairement mieux pour
exact.
Biden non plus, mais c'est ça, il a juste
il
laissé Biden.
Il a parfaitement joué ses cartes en disant ce qui était, je pense, pensé par bien des gens à la maison, c'est-à-dire on ne comprend même pas des fois
ça
ce que
ça sert à rien de se débattre.
Exact. C'était juste ça. Mais tu sais, juste mentionner rapidement, pour ceux et celles qui ont déjà étudié le journalisme, le marketing, la communication politique, ça fait des décennies que dans les livres d'histoire, dans les manuels, on enseigne comme cas de figure le premier débat Kennedy-Nixon comme étant crucial pour l'importance de l'image, comment le non-verbal, comment vous vous présentez, ça peut être aussi sinon plus important que ce que vous dites. Bon, tu sais, tu compares. Qu'est-ce que Nixon, vraiment, pouvait lui reprocher en 60, au premier débat? Vraiment, il y avait des douleurs de dos épouvantables, fait qu'il était sur les médicaments. Il y avait de la transpiration, il était mal rasé. Hey, on s'entend-tu que comparé à ce qu'on a vu l'an passé, je veux dire, la mémoire de Richard Nixon est comme exonérée pour la fin des temps? Parce qu'à partir de maintenant, on s'entend, depuis l'an dernier, le nouveau cas de figure, on l'a.
C'est celui-là.
Et je ne sais pas comment ou quand il va être « battu », entre guillemets, par qui que ce soit.
Ouais.
Fait que, bref, retour à la case départ, je sais pas si on peut avoir un équivalent démocrate à Trump, peut-être, peut-être pas. Mm-hmm. Ce qui est clair, c'est que ça va être ouvert. La course va être ouverte.
Ouais.
Autrement dit, on ne sait pas à quoi va ressembler
ça va être intéressant.
Ça va être super intéressant.
Puis est-ce que selon toi, justement, la situation au Proche-Moyen-Orient, on n'a pas parlé beaucoup du conflit israélo-palestinien, mais tu sais, est-ce que dans l'opinion publique, dans les médias, dans les élites, entre guillemets, on en parle peu, puis on prend peu position, mais dans l'opinion publique, du moins de ma perception, les gens sont très pro-palestiniens, ou du moins anti-personnes innocentes qui meurent, là, tu sais. Mm-hmm. Est-ce que ça, dans l'opinion publique, tu penses que ça peut jouer contre les républicains, puis...
Attends, je veux pas être indiscret, mais quand tu parles des gens autour de toi, il y en a combien dans ces gens-là qui ont le droit de vote aux États-Unis?
Non, aucun. Je le comprends,
attention.
Mais j'ai l'impression aussi aux États-Unis, il y a quand même cette mouvance-là, tu sais, qui justement que le représentant démocrate à la mairie de New York soit publiquement pro-palestinien, tout ça, c'est un discours, j'ai l'impression, qui prend de l'ampleur, puis à mon avis, avec raison, parce qu'il y a des atrocités qui se passent, puis il faut en parler, il faut le soulever. J'ai l'impression que ce conflit-là va pourrir un peu à l'intérieur du Parti démocrate, puis aussi si l'opinion publique est pro-palestinienne un jour ou l'autre, c'est les républicains qui vont
faire les frais.
Ouais.
C'est parce qu'il y a deux axes qu'il faut regarder ici. Premièrement, il y a de quel bord l'opinion publique penche. Est-ce que c'est plus d'un ou de l'autre? Si oui, lequel? Est-ce que c'est 50-50? L'autre axe, c'est de savoir, sur la liste des enjeux, où figure le conflit israélo-palestinien. Puis je vous soumettrais que pour analyser l'impact, il faut d'abord regarder le deuxième axe et non le premier. Parce que même si c'est un enjeu qui est à 99% contre un d'un bord, si tu as 1% de la population qui y porte intérêt... que ça change électoralement, pratiquement.
Mais c'est pas un sujet important, tu penses, pour les Américains?
C'est-à-dire que, parce que ça peut être mal interprété comme question, là. Est-ce que sur le fond, je pense personnellement que c'est un enjeu important? Oui, c'est un enjeu important. Est-ce que, quand on regarde les données de sondage depuis des mois, c'est un enjeu qui est primordial? La réponse, c'est non. Puis d'ailleurs, c'était assez fascinant de voir ça pendant la campagne de 2024. Il y avait déjà beaucoup, on se rappelle, là, on devrait se rappeler, beaucoup de chicanes au sein du Parti démocrate. M. Biden, après ça, Malam Harris, qui était critiqué. Je disais, j'étais à un rallye de Malam Harris au Michigan, dans le sud-ouest d'État, une ville qui s'appelle Kalamazoo. À l'extérieur, il y avait des manifestants pro-palestiniens, anti-Harris. Plus tôt, la même journée, je suis dans le comté d'Oakland, qui est au nord de Détroit, le même État, dans le sud-est du Michigan, à un rallye Trump. Il n'y avait pas un seul manifestant pro-palestinien, anti-Trump qui était là. Donc, il y avait déjà de la bisbille au sein du Parti démocrate. Mm-hmm. Plusieurs qui disaient, ça va peut-être couler le parti. Est-ce que ça l'a aidé? Non. Est-ce que ça lui a coûté des votes dans un État comme le Michigan? Oui, très probablement. Mais en même temps, est-ce que c'est un enjeu qui était absolument névralgique? Non, c'était pas prioritaire. L'enjeu prioritaire, c'était l'économie, c'était le coût de la vie. Ça, à moins qu'il y ait quelque chose de vraiment énorme qui change, ça risque de durer. Fait que, tu sais, je ne veux pas me contredire quand je disais tantôt que pour la course à la mairie de New York, le coût de la vie avait été un enjeu important, mais le conflit israélo-palestinien aussi en avait été un. C'est vrai. Mais c'est là qu'on observe une différence entre New York et l'ensemble de l'électorat américain. Donc, ce qui se passe dans la course à la mairie de New York, c'est une chose, ça ne veut pas nécessairement dire qu'on va avoir la même dynamique dans l'ensemble du pays. Monsieur, madame, tout le monde, dans le sud du Missouri, ce qu'ils s'attardent vraiment à la dynamique israélo-palestinienne, mm-hmm. quand ils vont mettre de l'essence dans l'auto, ils vont faire leurs emplettes à l'épicerie, la réponse simple, c'est de dire pas tant que ça. T'sais, fait, première question, qui est en fait le deuxième axe, c'est de savoir à quel point est-ce que c'est vraiment une priorité pour les électeurs et les électrices en 2028. La réponse prudente, c'est de dire présentement, pas tant que ça, peut-être que ça va changer, mais on ne le sait pas. Deuxièmement, pour ce qui est du premier axe, c'est-à-dire où loge l'opinion publique. Tu as raison, de plus en plus dans le camp pro-palestinien, surtout du côté démocrate. Mais là aussi, à quoi ça va ressembler? Ça dépend au moins en partie de ce qui va se passer d'ici 2028. Est-ce que ça va être le statu quo, ce qu'on a? Est-ce qu'au contraire, on va avoir un conflit régional qui va s'embraser encore plus? On ne le sait pas. C'est là que ça devient vraiment, vraiment difficile de répondre. Et on ne sait pas non plus qui les démocrates vont choisir. Est-ce que ça va être un politicien plus de la trame Hillary Clinton, pro-israélienne, davantage de la trame, ça serait surprenant, mais ce n'est pas impossible, même Danny, vraiment un politicien comme lui, farouchement pro-palestinien, pardon, c'est possible. Pas probable présentement, mais c'est possible. Et ça aussi, ça va avoir un impact énorme sur comment le débat est mené ou non dans une élection générale. Fait que c'est super difficile de commencer à faire des prédictions par rapport à ce à quoi va ressembler la prochaine élection présidentielle quand elle est dans trois ans et demi. Et soit dit en passant, tu sais, dans les dernières années, les 15 dernières années, on a eu un exemple hallucinant de ça. Il y avait une théorie, en ce qui me concerne, qui était complètement erroné dès la première heure et qu'on pouvait démontrer comme étant erroné, mais qui était extrêmement populaire pour plusieurs dans la classe, donc des commentateurs, des chroniqueurs politiques, était de dire le Parti démocrate, c'est le parti des minorités ethniques. Donc, plus on va avancer dans le temps, plus les États-Unis vont devenir un pays qui va être de plus en plus dominé, entre guillemets, dominé pas dans le sens bon ou mauvais, simplement d'un point de vue démographique, par les minorités ethniques. À un moment donné, dans quelques années, quelques décennies, les Blancs vont composer une minorité de la population. Donc, le Parti démocrate va être appelé à devenir lui-même dominant, là, d'un point de vue électoral, et le Parti républicain va mourir de sa propre mort. Bon. Et ça, on l'a répété. Il y avait même une expression pour ça qui disait « Demography is destiny ». La démographie, c'est le destin. En ce qui me concerne, c'était pas juste erroné, c'était ridicule quand on s'attardait moindrement à une analyse rigoureuse. Mais dans tous les cas, ce qu'on a vu, c'est qu'on essayait de prédire sur la base d'une tendance qu'on voyait sur quelques années derrière nous, ce qui allait se produire dans 20 ans. Puis regardez ce qui s'est passé. Non seulement le Parti républicain est maintenant majoritaire au Sénat, à la Chambre des représentants, à la Maison-Blanche, a nommé une majorité de juges à la Cour suprême, a une majorité des postes de gouverneur, une majorité des assemblées législatives des 50 États américains, mais leur leader qui a eu des propos ouvertement, objectivement racistes, a obtenu certains des meilleurs scores auprès des minorités ethniques pour un républicain depuis au moins le début du siècle actuel. La morale étant simplement, attention avec les prédictions, les projections électorales à long terme basées sur ce qu'on voit ou ce qu'on vient de voir. Peut-être que ça va continuer, mais ce n'est pas toujours une droite continue. Mm-hmm. C'était mal dit, mais vous comprenez ce que je veux dire.
Je comprends.
Une droite continue. Droite.
Merci beaucoup.
Faut faire attention comment on lève le bras maintenant. Là,
c'est ouais, c'est ça. C'est mon cœur. Qu'est-ce qu'on fait? Va à tous vous.
Et voilà.
Ouais. On aurait pu faire 3 heures facilement, je pense. Mais il faut te laisser aller.
Notre invitation avec grand plaisir. Puis merci beaucoup. C'était super fun.
Merci de l'invitation. Hey, on peut rajouter un 30 secondes.
Ouais,
je me le permets quand je suis à la radio. Je vais pouvoir me le permettre à la télévision. Je me le permets à la télévision, je me le permets à la radio. Je vais me le permettre certainement dans un podcast. Ouais. Juste pour dire, c'est vraiment le fun d'avoir du temps. T'sais, avant d'entrer en onde, entre guillemets, avec vous autres, je disais à votre partenaire, quand on assiste à des podcasts, très souvent, on a à la fois le meilleur et le pire du format, c'est-à-dire la possibilité de donner plus de profondeur. L'envers de la médaille, c'est qu'il y en a qui partent sur des tangentes. Mm-hmm. Je pense avoir fait les deux aujourd'hui. Parti sur des tangentes, j'espère avoir donné un peu de profondeur.
Beaucoup de profondeur.
Mais c'est le fun de pouvoir faire ça. Encore une fois, je ne vais pas tomber dans une discussion autobiographique. Mais ce qui m'amène à être dans l'espace public, à faire un podcast comme aujourd'hui, à faire des médias, c'est pas voir ma face sur des affiches publicitaires. À la base, j'enseigne dans la vie. C'est de pouvoir faire de la pédagogie. Et c'est le fun de pouvoir faire de la pédagogie de façon approfondie. Fait que si vous me réinvitez, c'est 4 heures de show.
Parfait.
Okay, c'est ma seule condition.
On boucle 4 heures la prochaine fois.
Un après-midi au complet.
Yes.
Merci.
Merci beaucoup.
Merci Raphaël.